Bien, ben bonjour à toutes et à tous pour cette séance du 12 décembre du conseil municipal. Je commence par faire l'appel. Donc, Isabelle Touzard présente. Gilles Cuisin.
Présent.
Juliette Paproki-Camard.
Présente.
Gilles Chicot.
Présent.
Séverine Ségismont.
Présente.
Corinne Durand.
Présente.
Alors, à le pouvoir. Mélanie Arnal est absente. Hélène Bonnet-Cuel, donc, pouvoir, c'est ça, à Corinne Durand.
Yes.
Dominique Baril.
Bonjour.
Guillaume Garcin.
Bonjour.
Laurent Mailloux.
Présent.
Jean-Claude Mouret.
Présent.
Claudine Moyane, donc absente, a donné pouvoir à Laurence Rousseau.
Qui arrive? Ah non, c'est pas Laurent, c'est.
Non, c'est. Ah voilà Véronique. Excusez-moi, mais du coup, j'ai fait deux voitures. Zut. Patrick Ortigoza.
Présent.
Véronique Pomared.
Présente.
Laurent Pratt.
Présent.
Laurence Rousseau.
Présente.
Et Bernard Senot, absent, donnez pouvoir à Jean-Claude Mou. C'est bon, il y est. Excusez-moi, il y a deux petites ratures sur la liste.
Non, non, j'arrête pas de courir, donc.
Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. J'ai proposé une petite modification suite à la discussion avec Gilles Cuisin. Ils sont plus pertinents d'inverser le point 2 et le point 3. Donc, d'abord la question du vœu pour la ZFE et ensuite le PDM. Sinon, donc, il y a 14 affaires à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations ? En dehors de cette petite permutation, sinon je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Il faut un ou une secrétaire de séance.
Oh, bah, tu peux me mettre, moi. Enfin...
Bon, c'est vous, t'étais déjà secrétaire
à la séance. Oui, bah, c'est pas grave.
Allez, bah, Juliette, alors. Juliette Paprici-Camard, merci. Il faut juste relire ce que fait Renaud. Donc l'approbation du procès verbal de la séance du 15 octobre. Alors Laurent Pratt a communiqué des modifications.
On a parlé avec.
Ouais, il y a un petit bug au niveau.
Vous avez un arsenal qui
a corrigé.
C'est corrigé ?
C'est corrigé.
D'accord. Voilà. Donc en dehors de ça, est-ce qu'il y a des observations ? Entendu, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Eh bien, on commence par le premier point, pas un des moindres, c'est l'élaboration du PLUI et donc l'avis de la commune sur le projet. Et juste en c'est Gilles Cuisin qui présente ça. Je crois qu'il y a des diapos du coup.
Sur les zones.
Voilà, donc le PLUI a été adopté en. Le projet de PLUI a été adopté en conseil de métropole. Il a été arrêté. Pouvoir lancer l'enquête publique et donc maintenant l'avis est requis au niveau des communes. Juste en introduction, une commune peut choisir de ne pas le mettre à l'ordre du jour du conseil, ça veut dire qu'il ne dit mot consent. Si la commune ne le met pas en délibération, ça veut dire qu'elle approuve le projet. J'entends bien, c'est pas encore le PLUI opposable définitif. C'est le projet, il y a un moment où il faut l'arrêter pour pouvoir dire, ben voilà, c'est ça qu'on soumet à l'enquête publique et à tout le processus que tu vas expliquer, Gilles.
Voilà. Non, mais on va expliquer. Il y a des choses un peu réglementaires au départ, et après on va pouvoir débattre un peu dessus. Donc, conformément à la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, du MAPTAM, la transformation au 1er janvier 2015 de la communauté d'agglomération de Montpellier en métropole, dénommée Montpellier-Méditerranée-Métropole, a entraîné le transfert de la compétence du plan local d'urbanisme des communes membres à la métropole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de PLUI. Par délibération du 12 novembre 2015, le conseil de métropole a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, a approuvé les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration des 31 communes membres et a arrêté les modalités de la concertation en application de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme. Le 19 juillet 2018, le Conseil de métropole a pris acte, après avoir débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Ces orientations ont fait à nouveau l'objet d'un débat le 1er juin 2023, afin notamment de traduire les objectifs du plan climat air énergie territoriale solidaire, je vous passe l'abréviation, et de répondre aux dispositions de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par délibération du 8 octobre 2024, comme l'a précisé Mme Touzard, le Conseil de métropole a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de PLUI. Conformément aux dispositions de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, la commune de Murviel-lès-Montpellier est désormais sollicitée pour émettre un avis sur cet arrêté, sur ce projet d'arrêté. Alors, il faut rappeler les objectifs surtout qui sont poursuivis. Il y en a quatre principaux. Le premier, c'est préserver et valoriser l'exceptionnelle richesse environnementale du territoire. Le deuxième, c'est de se préparer aux évolutions démographiques. Le troisième, c'est d'accompagner le développement économique créateur de richesses et d'emplois. Et le quatre, c'est d'adapter le territoire au changement climatique et essayer d'en atténuer les effets. Élaborer le PLUI de Montpellier-Méditerranée devait en outre, et ça fait partie aussi des objectifs, assurer l'intégration du cadre législatif, la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et la traduction des orientations portées par les documents cadres et les politiques publiques thématiques. Il devait aussi permettre la réalisation des projets communaux en privilégiant une approche contextuelle et morphologique portant sur des formes et des densités urbaines ainsi que sur les réglementations architecturales adaptées à chacune des communes, gabarit, hauteur, implication. Et c'est ce qu'on va voir notamment dans le PLUI, c'est qu'aujourd'hui, avant dans le PLU que vous pouvez voir, il y avait donc des zones U principalement qui étaient notifiées en zone U, UB. On avait des zones AUB, donc A urbanisées, donc toutes les zones que vous pouvez voir en AUB. Il y avait les zones A, les zones N naturelles. On va dire que notre PLU de ce côté-là, qui datait de 2008, avait besoin lui aussi d'un rafraîchissement, ou tout du moins d'être un peu plus à jour par rapport à ces nouvelles. Vos besoins de ces nouvelles demandes. Et c'est pour ça qu'on est allé sur un PLUI intercommunal. Donc, par-delà de ces objectifs initiaux, le PLUI doit répondre aux impératifs liés à l'urgence climatique et décliner localement et réglementairement les objectifs et orientations stratégiques en matière de transition énergétique et environnementale. Au final, l'ambition de cette démarche d'élaboration vise à concevoir un projet intégré pour aménager un territoire métropolitain de référence, à la fois respectueux de ses identités, équilibre, résilient et solidaire. Donc là, on va décliner l'ambition et les 6 défis majeurs du PLUI. Le premier, c'est de préserver la qualité de vie et la richesse de paysage de la métropole. Le deuxième, c'est faire face aux défis climatiques. Le troisième, c'est maîtriser la consommation foncière. Et on vous expliquera qu'il y a une réduction de la consommation foncière. Le quatrième, c'est d'encadrer la croissance démographique. Et la cinquième, c'est de construire la métropole en proximité des proximités au travers des politiques des mobilités volontaristes. Et le sixième, c'est d'affirmer une métropole productive, créative et innovante. Donc, ce PLUI, c'est un projet protecteur et préfigurateur d'une approche renouvelée de l'aménagement du territoire. À ce titre, l'un des axes majeurs du projet concerne le classement de plus de 2/3 du territoire en zone agricole et naturelle. Et là, vous verrez aussi que dans le PLUI, les zones agricoles notamment ont été déclinées sous 3 formes, les zones A, les zones AT et les zones AP. Les zones A étant des zones agricoles, les zones AT étant aussi des zones agricoles, mais avec une trame, on vous expliquera une partie, et les zones AP qui sont les zones de protection, c'est les zones agricoles de protection. J'en étais aux 2/3. Ces espaces seront conçus non pas comme figés et inaccessibles, mais comme des espaces à activer et à faire vivre, à la manière d'un grand parc métropolitain. Il s'agit dès lors de faire de l'ensemble des ressources potentielles qu'ils abritent une valeur partagée, support de cohérence sociale. De la sorte, le projet urbain se trouve contenu dans seulement 1/3 du territoire de la métropole, tout en permettant d'apporter une réponse aux besoins de l'ensemble de la métropole pour notamment favoriser le logement pour tous, développer une offre de sites d'accueil pour les activités économiques, et vous verrez qu'à Muriel, nous en avons une, et on peut dire qu'on s'est battu pour l'avoir. On en redébattra, mais on s'est battu pour l'avoir. Prendre en compte les besoins en équipement public et intégrer la politique des mobilités. Dans ce cadre, le PLUI s'inscrit résolument dans l'objectif qui sera fixé par le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le STRADET, modifié à la suite de la promulgation de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en poursuivant sa trajectoire de maîtrise de la consommation foncière par la détermination d'un objectif volontariste de réduction d'au moins 50% à l'horizon 2034 au regard des 11 dernières années. Donc on a pris la période de 2010 à 2021, hors projet d'envergure nationale. En conséquence, le PLUI propose plusieurs leviers pour atteindre ses objectifs de réduction de la consommation foncière, notamment de donner la priorité au réinvestissement urbain, c'est ce qu'on va voir aussi dans notre futur PLUI, en tout cas le projet, de réduire les extensions urbaines et optimiser les projets d'aménagement sur les sites d'extension urbaine, et de limiter la consommation foncière dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ce qu'on peut voir donc sur Muriel aujourd'hui, le zonage a été revu et reclassé. Alors il est long et fastidieux parce que chaque zonage est quelque chose d'assez spécifique. Mais on peut voir que tout ce qui est en zone U, donc du UA, du UC, l'UA étant le cœur de village, le UC étant sur les parties nord-est, pavillonnaire, voilà, et sud-ouest. Avec par zonage aussi des réglementations et des spécificités qui lui sont propres et qui reprennent, on va dire, ce qui existe, ce qui est l'existant. Le but du PLUI, c'était ça, c'était l'existant d'aujourd'hui, comment le figer en partie, mais en même temps autoriser et surtout, vu qu'on ne va plus sur l'espace foncier extérieur agricole, prévoir un réinvestissement urbain. On a aujourd'hui des parcelles, notamment dans la partie nord, qui sont assez grandes et sur lesquelles on sait que quand vous avez une seule maison sur une grande parcelle, il y aura un certain investissement urbain à faire. Pourquoi ? Pourquoi ça et pourquoi cet enjeu ? Parce qu'aujourd'hui, si on ne va plus sur les espaces agricoles, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est on doit quand même accueillir des gens. Il faut vous rappeler qu'on a un PDH qui nous fait qu'aujourd'hui nous devons produire à peu près entre 20 et 25, si je ne dis pas de bêtises, Isabelle.
PDH, c'est 25
c'est par jour, pas par an. Donc par an. Or, si on devait rester figé à ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas respecter cet engagement qui est aussi un lien qu'on a avec la métropole. Et puis il faut bien que les murs violets aussi puissent, à terme, aussi habiter sur place, nos enfants, nos petits-enfants. Et le but, c'est qu'on n'aille plus sur les espaces agricoles, mais par contre, qu'on fasse du réinvestissement urbain. Et à ce sujet, les zonages ont été faits en sorte. Il a été aussi rajouté dans ces zonages une partie, on va dire, de protection des espaces verts. Alors, c'est aussi un enjeu, hein, puisqu'on l'a vu, et il y a des études qui montrent aujourd'hui que vous avez une rue qui est sans espace vert et une rue qui est avec espace vert, vous diminuez la température. Ça, toutes les études urbaines le montrent aujourd'hui. Donc le but, c'est une partie. Et il y a aussi autre chose qui est rentrée en jeu dans le PLUI, c'est la notion de perméable et d'imperméable. Aujourd'hui, on va être clair, sur une parcelle, vous pouviez faire une maison et tout imperméabiliser en mettant du goudron partout. Je l'ai vu, ça existe. Le but aujourd'hui, c'est que chaque parcelle puisse retenir une partie de l'eau, qui est de l'eau de pluie, pour éviter d'inonder et éviter d'être déversée. Donc à ce titre, dans le PLUI, il est prévu, pour chaque parcelle, vous pouvez toujours construire, mais il y aura une partie qui restera naturelle, perméable, où vous récupérerez l'eau et on évitera ainsi de faire un ruissellement qui peut être néfaste, notamment en aval, dans la partie la plus basse. Que dire de plus ? Donc nous avons en jaune, vous pouvez le voir, une zone d'activité qui est prévue. Alors quand est-ce qu'elle sera ouverte ? Ça, nous n'avons pas encore, puisque c'est un projet. Le but, c'est que le projet du PLUI l'inclut dedans. Et là, c'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné, puisque la métropole qui a la compétence dessus, au départ, ne voulait pas forcément inclure une zone d'activité sur Muriel. Mais là, on peut dire qu'on a une vraie bataille avec eux pour expliquer qu'aujourd'hui, nous avons des demandes d'artisans locaux qui ont besoin de pouvoir s'implanter localement. Et la métropole a bien entendu nos demandes. Et donc, à créer une zone d'activité, en tout cas prévoir de créer une zone d'activité pour nos artisans existants ou futurs artisans, si en fonction de la place disponible. Voilà, après, on est à votre écoute, à vos questions. Oui. Allez-y, vas-y Isabelle, complétez.
Peut-être compléter. Merci, là, il faudrait rappeler que c'est un travail qui a été mené étroitement avec de très nombreux allers-retours entre la commission urbanisme, le conseil municipal. Très régulièrement, on a présenté à chaque fois qu'on avait des nouveaux éléments, parce que ça a été une construction très progressive depuis qu'a commencé en 2015-2016. Le lancement du processus était lancé en 2015 et les premières réunions ont commencé le mandat précédent, premier échange. Par rapport, moi ce que je voudrais préciser avant de rentrer dans les détails, c'est par rapport à cette question de la densification, le PLU actuel est beaucoup plus permissif que le PLUI, c'est-à-dire la capacité de, on le voit sur des parcelles actuelles, dans le cadre du PLU actuel, on pourrait déboucher sur un nombre de logements sur certaines grandes parcelles qui serait astronomique. Donc le PLUI accompagne la densification et limite, même si ça, il peut encore y avoir pas mal de logements sur certains endroits.
Et elle limite avec la avec le.
Et c'est notamment le coefficient de.
On n'avait pas de coefficient avant.
De terre pleine qui permet de limiter ça. C'est une chose qui n'existait pas avant, tu as raison. Après, l'autre élément important aussi, c'est ce qui ressort dans les différents indices, dans UC3, UC4, etc., c'est qu'on essaye. Et ça a été un très gros travail de faire en sorte que les nouvelles constructions respectent ce qu'on appelle les formes urbaines. C'est-à-dire qu'il y a certaines rues aujourd'hui dans le village qui ont des ambiances d'avenues, avec très arborées, avec un recul des maisons, notamment tout au-dessus des jardins, avec la passe, le champ des moulins, etc. Et l'ambition, c'est que ces formes, ce qu'on appelle ces formes urbaines, soient préservées. C'est-à-dire que, par exemple, la question nous a été posée par la métropole. Il y a deux façons d'entrevoir. Soit les espaces verts sont ce qu'on appelle en fond de parcelle et sur la rue, on arrive en front de rue et c'est des choix, hein, ça donne des ambiances urbaines différentes, de dire on préserve les espaces en bord de voirie et on met la constructibilité en fond de parcelle, en delà. C'est par exemple ce qui fait par exemple que l'on préserve les 7 mètres sur le champ des moulins, etc. Et on a distingué les rues même, on a été assez loin dans le zonage pour repérer des phases historiques qu'il y a pu y avoir dans les lotissements, puisqu'il y a eu des premières phases de pavillons sur des très grandes parcelles, ensuite plus l'histoire a avancé, les années 80, 90, 2000, plus les parcelles étaient petites, on est arrivé à des rues qui sont plus en mitoyenneté, on va voir de la mitoyenneté par exemple, des parcelles plus petites, donc à chaque fois le règlement a été adapté de façon à ce que les nouvelles constructions respectent l'ambiance préexistante et ne fassent pas des ruptures comme on a pu malheureusement le voir dans, par exemple avenue du Clapas, où le PLU autorise jusqu'à présent de construire au droit de la rue, alors que... Donc ça, c'est l'élément, je crois, important qui fait qu'il y a toute cette complexité. Et alors, il ne va pas être facile, un statut. Il est beaucoup plus complexe à instruire, ce PLU, que le PLU précédent, puisque, en fonction des zones, toutes ces règles varient. Donc, on a distingué, par exemple, à Rouvière-Longue, différents niveaux à partir d'une analyse qu'on appelle des formes urbaines existantes, différents niveaux existants aujourd'hui de densification que l'on veut respecter à l'avenir. Je pense que le deuxième élément important, c'est que dans notre PLUI, outre le projet de petite zone artisanale, hein, petite, c'est en bas à la Matène, mais au moins l'intérêt d'exister sur le papier, sur le zonage, c'est un AU à urbaniser, donc il faudrait une modification du PLU pour l'ouvrir à l'urbanisation. Ça, c'est une compagne. Mais il y a aussi, on ne le voit pas sur la carte, inscrit sous forme d'orientation d'aménagement et de planification, okay, le projet cœur de village. Donc le projet cœur de village, qu'on a souvent expliqué dans les bulletins et dans les réunions publiques, qui consiste à reconfigurer tout l'espace ici autour de la mairie, enfin les plus par là, pour permettre la création d'une vraie place et l'accueil de commerces plus grands, plus à l'aise. Et de revoir aussi tout ce qui est les mobilités, la circulation, pour apaiser tout ça. Donc ça aussi, c'est dans le PLUI. Dans le PLUI aussi, mais c'est déjà existant, il n'y a pas une branche, des zones UD, c'est les zones qui sont vouées à accueillir ce qu'on appelle des équipements collectifs. C'est-à-dire c'est des zones où le programme ne prévoit pas du logement, mais des équipements collectifs, que ce soit en prolongation du plateau sportif, que ce soit au niveau de la carte coopérative, que ce soit autour du cimetière actuel ou d'un futur cimetière Champ des Moulins ou au niveau des locaux techniques actuels. Donc ces zones sont ciblées pour être vouées aux collectifs, chose que ne distinguait pas le PLU précédent, qui ne faisait pas de distinction à ce niveau-là. Autre élément important quand même, c'est que par rapport au PLU, disparaissent tout ce qui était en AUB dans l'ancienne ZAC de la Morte et des Réaux, donc toute la partie Réaux n'apparaît plus. Il y a de très rares zones de légère extension, hein, de zones qui avant étaient en A ou en N, qui sont en U, mais c'est plutôt pour finaliser l'enveloppe urbaine. Voilà, je pense que c'était important de dire ça. Je pense que ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a une réflexion, ce que j'en ai dit, hein, c'est que c'est un PLU, c'est un document de planification qui permet de dessiner le village de demain par les règles qu'on donne. Et forcément, donc le village de demain, il doit être adapté au changement climatique. Hein, tu l'as dit, c'est préserver la végétation, c'est donner des ambiances qui rafraîchissent, c'est lutter contre le ruissellement, c'est lutter contre l'imperméabilisation. Enfin, c'est toutes ces. C'est aussi, chose nouvelle, préserver les cours d'eau avec les espaces de bon fonctionnement, différents des PPRI, etc. Donc c'est tout ça qui est dans le PLUI, je veux dire, qui fait les objectifs du PLU. Dans un PLU, c'était la même chose en 2008 quand le PLU était adopté. Hein, ça donne, bien entendu, ça se traduit sur le terrain dans les parcelles par des droits à construire, plus ou moins importants en fonction des parcelles, bien entendu, selon là où elles sont situées. et donc des contraintes plus ou moins importantes quand on descend à l'échelle de la parcelle. Le PLUI, c'est des longues années de travail. Il n'est pas parfait sans doute. On va sans doute se rendre compte à l'épreuve des faits qu'il y a des petits endroits où il y a des choses qui ne collent pas, qui ne marchent pas. Il faudra qu'on les relève. Il y aura dans 3 ans, une fois qu'il sera adopté, 3 ans après, il y aura une révision qui sera lancée, ça nous l'a expliqué. Et donc à cette occasion-là, s'il y a des choses qui ne sont pas, cohérentes, qui pourront être révisées. Donc c'est une nouvelle base, je dirais, intercommunale, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va retrouver la même terminologie, les UC, les UA, les UB, enfin partout sur les 31 communes de la métropole, c'est ça que ça veut dire, un PLU intercommunal. Ça veut dire que globalement le territoire a un même objectif, qui se traduit très bien à Murviel, limiter la consommation foncière en zone agricole et naturelle notamment. Une chose importante, parce qu'il y a eu, on a parlé des énergies renouvelables, je voulais juste insister là-dessus aussi, donc en zone A et N, aujourd'hui, notamment le photovoltaïque, le PV, n'est pas possible en zone N, alors qu'il était possible dans certains endroits, juste dans le PLU actuel. Donc le PLUI, même globalement, au niveau de l'ensemble du territoire, à la différence des PLU, parce que chaque commune avait son PLU, on avait des règles, des partis pris différents. Aujourd'hui, le PLUI, l'échelle du territoire, cible les zones où des fermes photovoltaïques peuvent être implantées. On les cible, elles sont ciblées, elles ont été identifiées. C'est souvent des anciennes zones de carrière, ou des anciennes zones de déchetterie ancienne, ou des anciennes zones très dégradées, quoi, qui peuvent objets. En zone A, le photovoltaïque est possible dans le cadre de l'agrivoltaïsme. Ça, c'est autre chose. Par contre, il n'est pas possible en AP et en AT. Donc la dernière, et après j'insiste là-dessus, la nouvelle dimension de ce PLUI par rapport au PLU précédent, c'est la notion de biodiversité. Jusqu'à présent, cette question-là n'apparaissait pas, n'était pas un élément pris en compte pour dresser les règles de l'insoutenabilité. Aujourd'hui, il y a la trame verte et bleue, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, verte pour le long des cours d'eau, bleu le long des cours d'eau et verte ailleurs, qui comprend des corridors et des réservoirs de biodiversité, qui est un document défini par la région Occitanie dans le cadre de schéma de biodiversité et qui est affiné sur la métropole. Et donc en zone A et N, sur ces couloirs de biodiversité, la constructibilité est toujours possible, mais elle est réduite, pour pouvoir ne pas porter atteinte à la fonctionnalité des animaux, des espèces. Donc en fait, concrètement aujourd'hui, la nouveauté sur Murviel par rapport à avant en zone A, c'est qu'on a des zones protégées, où les possibilités de nouvelles constructions sont quasiment impossibles. On peut étendre l'existant si on est agriculteur, mais on ne peut pas créer de nouveaux bâtiments. Les zones AT, donc à trame, qui sont sur ces corridors écologiques, où là on peut, mais dans des dimensions plus contraintes, et le A tout court, où là on peut créer de nouveaux bâtiments, de nouveaux installations. Pour finir là-dessus, c'est important, le PLUI harmonise entre les communes, puisque ça c'était une critique de la Chambre d'agriculture. Il y avait des communes où toutes les zones en A étaient inconstructibles, même pour les agriculteurs, certaines communes comme la Vérune, comme Saint-Georges-d'Orque, comme Saint-Genès-des-Mourgues, enfin plein de communes comme ça, et d'autres communes comme à Murviel, où tout le A était constructible pour les agriculteurs, sans distinction de... Donc là, il y a eu des études paysagères qui ont été faites, et donc dans toutes les communes, on va retrouver du A, du AP et du AT. Et ça, ça a été vu avec la Chambre d'agriculture, au niveau global. Je pense que ça c'était pour...
Il faut bien expliquer qu'effectivement un PLUI, c'est, comme l'a dit Isabelle, beaucoup d'années de travail. Ça a même commencé sous le mandat d'avant, c'est pas le mandat d'aujourd'hui. Et que même s'il n'est pas, il peut ne pas être parfait, il n'est pas forcément parfait, on trouvera des choses, il y a des choses à redire. Mais il faut bien un document de travail pour commencer à établir un schéma, pour établir des premières règles. Il faudra les faire évoluer, un PLU a évolué, même le PLU de Murviel de 2008 a eu plusieurs amendements, donc il a évolué. Là, on est exactement sur le même schéma. La contrainte, c'est que surtout, ça a été fait sur 31 communes, et le fait de vouloir harmoniser sur 31 communes des règles, alors il y a des règles quand même qui sont spécifiques à Murviel, puisque chaque village peut avoir des règles.
C'est pour les indices,
ouais. Voilà, au niveau des indices, mais les règles sont sur l'ensemble de la métropole. Bien forcément, voilà, il y a des compromis à faire, il y a des choses à voir. Mais pour autant, de ce qu'on peut voir aujourd'hui du PLUI, c'est qu'il répond notamment aux nouveaux enjeux, qui sont des enjeux climatiques, et en même temps, comme on l'a dit, au niveau de l'eau, aujourd'hui, moi j'ai vu des parcelles sur Murviel qui étaient 100% bétonnées, goudronnées, il y avait une maison et tout du goudron autour. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que, d'abord, c'est un îlot de chaleur, je ne vous en parle pas. Et surtout, même au niveau donc, de la pluie, et, enfin, de la rétention d'eau, on n'est pas bon, quoi. Je veux dire, et aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a une évolution de ce côté-là. On l'a vu, les inondations dans le Nord, on a vu des inondations partout, et on verra des inondations, je ne parle même pas de l'Espagne. Le but aujourd'hui est aussi de voir qu'à une époque, on bétonnait partout. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il ne faut pas construire, on va construire, on continuera à construire, mais avec des règles qui feront que on va aussi absorber une partie, partout, c'est clair quand il y a un épisode méditerranéen, mais au moins une partie, et que la constructibilité sera toujours autorisée, mais avec des règles qui iront dans le sens aujourd'hui de l'évolution qu'on a au niveau climatique, entre autres, mais pas que, avec tous les enjeux économiques qu'on peut avoir.
Voilà. Donc, je donne la parole. Qui veut prendre la parole ? Commentaire ?
Ah, moi, je vais en faire un, hein. Vous en doutez. D'abord, bon, je salue le travail qui a été fait par la métropole, par les bureaux d'études, par les élus. C'est un travail énorme, très ambitieux. Mais cependant, j'ai quand même des réserves importantes qui vont me conduire à pas être favorable à ce document. Donc, je vais vous lire... que j'ai résumé. Donc, je vous ai fait part par écrit et oralement à plusieurs reprises mes observations sur l'élaboration du PLU de la métropole. Ces remarques concernaient principalement la demande de certains viticulteurs de la commune concernant des modifications mineures du plan de zonage, avec des extensions très légères de la zone A en bordure de leurs installations, afin de leur permettre éventuellement dans le futur, et je leur souhaite, mais c'est mal parti en ce moment, de pouvoir agrandir leur zone de stockage. Ensuite, j'ai souligné l'incohérence du plan de zonage sur des terrains situés en dehors de Murviel, mais c'est un PLUI, donc j'en parle quand même, en zone N, alors que les parcelles concernées sont cultivées de vignes ou de champs d'oliviers et de maraîchage depuis peut-être 50 ans. Donc le classement de ces terrains en zone N, donc ça reste en zone N, alors que c'est cultivé par des agriculteurs, pose problème parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on en fasse même démolir leur serre.
C'est pas sur
Murviel, ça. Non, mais moi, c'est PLUI, d'accord. C'est pas Murviel, mais c'est enfin, tu sais où c'est. C'est contre Murviel, c'est de l'autre côté d'un fossé. On est en zone agricole. Avec des vignes, et sur toute la coulée, là, et puis à un moment, paf, il y a un fossé, boum, ça y est, on est en zone N. C'est incompréhensible. Voilà. Et ensuite, la modification de certaines règles de construction sur les parcelles contraintes par une végétation existante. C'est ce point-là qui me pose le plus de problèmes, parce qu'on va être embêté très rapidement, et s'il faut attendre 3 ans pour qu'on modifie le règlement, pendant 3 ans, ça va être... pour certains difficiles, autant pour les pétitionnaires que pour les élus et la métropole qui devra gérer les demandes de permis de construire. Donc mes demandes concernant ces 3 points ont été faites par écrit en mairie auprès des communes de Murviel et de Pignan, puisqu'on parle de Pignan. Elles ont été transmises à la métropole. Je constate aujourd'hui à la lecture des documents consultables en mairie qu'aucune de ces demandes n'a été prise en compte et je doute fort qu'une intervention auprès du commissaire enquêteur y changera quelque chose. J'admets le travail colossal réalisé par les bureaux d'études et par les élus de la métropole, mais peut-être que sur certains sujets, nous avons été trop ambitieux en voulant rentrer dans un détail presque à la parcelle, sans mettre les moyens complémentaires de relever sur site, au sol, plutôt que par photographie aérienne. Je pense principalement à la végétation. Les dispositions prises et les contraintes mises en place par le règlement du PLUI poseront immanquablement problème lors de l'instruction des demandes de permis de construire. Le résultat aboutira dans certains cas à la colère du pétitionnaire et à l'incapacité de l'élu à satisfaire ses besoins d'extension ou de construction. J'avais émis l'idée de demander sur chaque demande de permis de construire un état des lieux, du couvert végétal et un projet de construction lié à un projet de végétalisation des parcelles, assurant la non-dégradation du paysage, voire sa valorisation. Cette disposition aurait amené la souplesse nécessaire afin d'éviter les incohérences que nous allons trouver et qui resteront insolubles, au moins pendant 3 ans. Enfin, je regrette encore une fois qu'aucune disposition ne soit mise en place pour imposer un minima pour les constructions neuves, notamment pour les ensembles collectifs, une rétention d'eau permanente et non provisoire telle qu'elle est imposée aujourd'hui. Ces deux sujets sont indépendants, mais si la rétention des surfaces imperméabilisées est maintenant généralisée, elle prouve qu'une rétention permanente en vue de l'arrosage et autres usages non alimentaires est possible à grande échelle. Quand on a reçu le prix de l'ALEC pour la commune économe en eau, j'ai fait part de cette idée à l'ensemble des maires qui étaient présents, en public, donc, en leur disant que le PLU était en cours d'élaboration et que c'était peut-être le moment. Les générations futures nous diront qu'avec des milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la métropole, personne n'a pensé à garder de l'eau en hiver pour l'utiliser à des fins d'arrosage, de nettoyage de voirie et autres usages domestiques non alimentaires. Ainsi, en toute logique, je ne vois pas comment je pourrais approuver le PLUI alors qu'aucune de ces observations n'a été prise en compte. Voilà.
Alors, peut-être juste dire une chose, hein, par rapport aux zones A des agriculteurs, et je l'ai dit à ceux que j'ai rencontrés, au début de la métropole, toutes leurs parcelles, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, étaient en AP. Ils ne pouvaient rien faire. Je me suis battue pour qu'ils passent en A, pour qu'ils puissent construire. Tous. C'est important de le dire.
Ouais, mais
deuxième chose, c'est important pas. De le dire.
Ah oui, oui,
tu as raison. Je quand même, il faut le dire parce oui, que on se bat. C'est important. Tous les domaines de chemin de Catala, ils étaient en AP. C'est facile, ils ne pouvaient plus rien faire.
Tout à fait.
Je me suis battue pour faire apparaître toute une bande de A entre le N et le AP pour qu'ils puissent construire. D'autres domaines, je ne vais pas les citer, étaient en T, tram. Oui. Je me suis battue pour faire des petits timbres postes pour qu'ils soient constructifs. Je me suis battue. Deuxièmement, je me suis battue pour que les premiers travaux qui nous amenaient des espaces verts protégés sur la commune, très importants, soient entièrement revus par le bureau d'études et ça a au moins été divisé par 10. Si on prend l'emprise des premiers travaux qu'on a eu en commission d'urbanisme et ceux à quoi on arrive aujourd'hui, franchement, il ne reste plus grand-chose. Donc, pendant tout le processus, alors certes, on n'a peut-être pas encore été assez loin, mais pendant tout le processus, on s'est battu pour arriver à prendre en compte ce qu'on nous servait. Alors on est bien conscient qu'il y aura encore des endroits où il va y avoir, par-ci, par-là, peut-être des choses qui vont être... Voilà, parce qu'on n'a pas été jusqu'à vérifier la pertinence du PLUI à l'échelle de chaque micro-parcelle, mais on aura tout fait pour faire entendre ce que était remonté de la commission d'urbanisme, des agriculteurs, pour adapter, et croyez-moi, ce n'était pas toujours facile. Je me suis battue pour que toutes les zones agricoles, réellement agricoles, sur la commune, soient agricoles et pas en N. Et on a recartographié, y compris des terrains qui étaient en N précédemment, qu'on a remis en A, pour que la réalité du territoire de Meuviel, de ce qui est le A et le N, soit pris en compte. Alors, il y a certains endroits, je n'ai pas été voir tout ce qui se passe chez les voisins, mais en tout cas, sur Meuviel, on s'est battu pour que ça arrive. Alors, certains, c'est clair, moi je le répète, dans un PLU, on transforme des règles, on fait évoluer des règles. Il y en a forcément certains propriétaires pour lesquels il y aura un peu moins de constructibilité qu'avant et d'autres où il y aura un peu plus. Parce qu'à chaque fois, c'est... Mais on traite les choses de façon à avoir une harmonie dans une rue, une harmonie dans un quartier. On ne regarde pas chaque parcelle indépendamment, mais on regarde l'harmonie globale que ça va donner. Dans... Parce que ce qui compte dans un PLU, c'est de créer un cadre de vie. C'est de créer ce qui va être dans l'intérêt général, le cadre de vie de nous tous. Au-delà du fait qu'il faut qu'on adapte le village. Mais je pense, Gilles, c'est important de dire que quand même, il y a eu du chemin parcouru, et même si aujourd'hui, toutes tes demandes ne sont pas entièrement satisfaites, il y a eu quand même énormément de travail de fait en aller-retour avec les services de la métropole pour faire évoluer des choses.
Non, mais ça, j'en suis conscient.
C'est très important.
Je sais que vous avez fait passer des messages à la métropole. Peut-être qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tout, quoi.
On ne peut pas tout maîtriser dans un PLU.
Oui, non, mais nous, mairie de Muriel des Montpellier, on a fait des demandes qui n'ont pas été suivies d'effet.
Beaucoup ont été suivies.
Alors, oui, mais
on a été très, très loin.
Ne peuvent pas être suivis parce que tu es sur un PLU intercommunal et que forcément, à un moment, il y a des arbitrages, il y a des choix, il y a des choses qui peuvent. On va parler par exemple de la AT, hein, ça concerne quelque chose d'un peu plus particulier, sans rentrer dans le détail. Mais une fois qu'on est sur du AT, on a essayé de faire enlever, comme a dit Isabelle, une partie. On a réussi, mais pas tout. Et on ne peut pas tout, parce qu'il y a toujours un compromis. Et ça sera toujours de partout. Le PLU n'était pas satisfaisant non plus, parce que le PLU ne répondait pas à tout non plus. Et il y a des gens qui étaient contents du PLU, et il y en a qui n'étaient pas contents. Sur le PLU, on va avoir exactement la même chose. Le but, là, du PLU, c'est d'essayer de donner déjà une impulsion, donc de répondre aux enjeux, tels qu'ils sont définis, tels qu'ils ont été, et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, ça je te l'accorde, Gilles, on pourra toujours faire mieux. Et il y aura une révision, elle est déjà prévue, elle est déjà actée et programmée. Mais il faut déjà en poser une première base pour pouvoir aller ensuite sur une amélioration. Mmh. Et oui, on fera des satisfaits, on fera des insatisfaits. Oui, on a répondu à certains enjeux, on n'a peut-être pas répondu à tout le monde et à tout. Mais c'est comme tout document, et surtout à cette échelle-là, et encore nous, on est sur un village qui est relativement, je dirais, concentré, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus étendus, et on ne parle même pas de la ville centre. Voilà, c'est pas facile. Après, oui, il y a des gens qui ont écrit, tu en as fait partie, il y en a d'autres qui ont écrit, et certains ont eu, on va dire, gain de cause, ou tout du moins, une modification a pu être apportée, d'autres, elle n'a pas pu être apportée, en tout cas, pour l'instant, elle n'a pas pu l'être. Est-ce qu'elle le sera dans le futur? C'est possible aussi, hein, parce que tout se discute. Hein. On n'a même pas parlé de certaines dispositions qu'il y a d'emplacement ou autres qui peuvent effectivement évoluer. Donc voilà, ça fait partie, je dirais, et des contraintes quand on est 31 dedans, parce que là aussi, on est 31.
Patrick, peut-être tu veux intervenir, oui, Laurent. Oui. Et juste veux dire, pour compléter, je vous donne la parole, c'est que nous, on l'a vu lors de cette très longue élaboration du PLU. Mais c'est normal, hein, dans le village, il y a des personnes qui souhaiteraient que leur parcelle soit plus constructible pour qu'elle prenne de la valeur, et il y en a d'autres qui, au contraire, sont venus nous voir en disant oh « Non, on a des endroits, on avait envisagé du R+2. Non, 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 surtout rester au R+1, on ne veut pas. » Donc, il y a des attentes personnelles qui sont aux antipodes dans un village. Certains qui souhaiteraient pouvoir plus, construire plus, d'autres qui, au contraire, souhaiteraient moins. Donc, on ne peut pas satisfaire les intérêts individuels, tous les uns côté des autres. Un PLU, ce n'est pas possible. Un PLU, c'est un document de planification qui est là, qui planifie la collectivité. Après, on essaie de faire en sorte qu'il soit cohérent, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il soit cohérent. Donc là, il y a peut-être des incohérences qui vont peut-être surgir, hein, même sur SVVV à tout, par-ci, par-là. Il faudra les noter, expliquer, être à l'écoute. Dire en effet, là, c'est pas normal, on va y travailler et à l'occasion, ben, patienter quelques années et rectifier la chose lors d'une modification de ma vie. Oui, Patrick ?
Alors moi, je voulais revenir sur les demandes qui nous ont été faites au niveau constructibilité dans les parties déjà construites, dans la surdensification. Pour moi, sur les surdensifications, le PLU n'est pas allé assez loin. On se rend compte qu'on se fait un petit peu avoir par les promoteurs. Qui en fait sur un espace qui était avec une famille ou deux familles, on arrive à mettre un nombre de familles qui est pour moi exponentiel et qu'on ne pourra pas traiter après au niveau de l'accueil au niveau du village. C'est-à-dire au niveau des structures des écoles, des garderies, des routes et des voiries, des alimentations d'eau et tout ça. Là, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose où on arrêtait, enfin une règle, qu'on puisse réduire cette surdensification de terrain par rapport aux alimentations qu'on peut faire de ces terrains, aussi bien en eau, en électricité, qu'en une école, qu'en tout à l'égout, qu'en tout ça. Voilà. Et ça, ça n'apparaît pas et ça me gêne. Parce qu'en fait, quel que soit le terrain, quelle que soit sa position, qu'il soit au bord d'une grande route avec toutes les alimentations qu'il faut dans un village où il y a des écoles très, très libres, c'est pareil qu'un endroit où il y a une densification qui est déjà limite au niveau des structures, qu'on rajoute cette densification.
Ça, c'est, je suis d'accord avec toi, et ça c'est le gros sujet qu'il va falloir être très vigilant. Ouais. C'est que dès lors qu'on est en U, quand on a une zone en U, on sous-entend qu'elle est, comment dire, tous les réseaux sont là. Et qu'elle est directement...
Viabilisable.
Elle est viabilisée. Voilà. Elle est plus que constructible, elle est viabilisée. Donc, ça peut être constructible sans un viabilisable, elle est constructible et viabilisée. En fait, c'est ça quelque part le U. Et donc dans les quartiers anciens où les réseaux sont dimensionnés sur... voilà. Donc ça, c'est une vigilance, c'est moi-même qui a attiré l'attention hein, là-dessus par rapport aux questions financières. Donc on est en train de travailler au financement de ça, au travers de la pub périmétrale, donc ça m'est majoré. Et puis il y a la soutenabilité par rapport aux écoles, par rapport au cadre de vie aussi, hein, par rapport au stationnement, tout ça. Et donc là, nous, c'est un travail qu'on doit mener. Moi, j'en suis très consciente par rapport... Parce que ça donne un cadre, hein, le PLUI. Mais avec les promoteurs, parce qu'ils viennent nous voir en mairie, et c'est un travail qu'on doit mener avec eux pour temporiser. Quoi.
Et
les propriétaires.
Voilà, et il est clair qu'effectivement,
et les propriétaires.
Tout professionnel, lui, qu'est-ce qu'il va regarder ? Le document qu'il a, et il va tirer le maximum sur un document.
Alors déjà, qui le PLUI, que ce soit, je veux dire, déjà, c'est le PLUI freine, hein, et moins, beaucoup moins.
Mais,
On en met moins
au PLUI qu'au PLU, parce que la même parcelle au PLU, Benjamin peut te faire... Enfin, faire le truc. Ça va être une concentration. Une fois et demie ce qu'il y a, là, le PLUI, déjà, en a réduit une partie. Mais
il y a une possibilité, quand ces zones-là, pour construire dans des vignes, comme ils font maintenant partout, dans des lieux malheureusement agricoles, qui construisent des lotissements immenses, vu que ça va plus y être, ils vont se rabattre sur toute cette terre-là.
C'est clair.
Donc on va avoir un afflux déjà, on est harcelé par les promoteurs pour vendre les terrains pour qu'ils fassent des trucs comme ça. Moi, ce que nous prévoit, ça ne m'intéresse pas. Parce que comme on parlait des gens qui veulent que ce soit constructible chez eux, le plus possible, c'est des gens qui se barrent.
Ouais,
c'est-à-dire que moi j'ai des terrains en bien, je balance des immeubles, je fous 80 appartements.
Alors il n'y aura pas d'immeubles, parce qu'il y a du R que du R plus 1.
C'est pas ça, vous dire ça.
Non, mais faut pas. Elle s'est enregistrée, j'ai pas envie que les gens croient qu'il y a des immeubles. Attends,
on est R. Les personnes qui veulent densifier pour mettre 2 ou 3 maisons dans leur terrain.
Ça va vite, moi
je me dis. Ces gens-là, ils ne veulent pas une surpopulation. Voilà, ce que je veux dire. Ceux qui veulent les surpopulations, c'est les gens qui vont partir du village.
On est d'accord, le débat, de toute façon, on l'aura toujours, que ce soit à Muriel ou dans les autres communes.
Oui.
Du moment qu'on édicte des règles, et aujourd'hui les règles du PLU pourraient faire pire que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça n'a pas encore été utilisé, mais sur le PLU, les gens auraient déjà pu amener des projets beaucoup plus denses que ce qu'on a, grâce justement aux règles qui limitent en partie la constructibilité. On réduit, mais peut-être...
Mais il n'y a pas cette pression qu'ils vont avoir maintenant, qu'ils vont avoir des terrains meilleurs.
Ah mais, voilà. On est très clair.
Là, on a une pression sur pression, je veux dire.
On est très clair qu'ils nous ont carrément, enfin, ils nous ont bien expliqué qu'aujourd'hui, n'ayant plus d'espace extérieur, où que ce soit, hein, on parle en termes généraux, il est comme... L'objectif même du PLUI, c'est une densification. Ils vont aller là où est la densification.
Mais on n'est pas Montpellier, on est un village.
On est d'accord. Pour autant, au niveau des réseaux et au niveau des écoles, hein, effectivement, il faut des phasages, il faut des zonages, il faut réussir à phaser tout ça. Et c'est l'objectif aussi. Est-ce que le PLUI y répond aujourd'hui ? En tout cas, il répond à une partie, c'est déjà de diminuer cette densification qui était possible dans le PLU, ça il faut le dire. Mais est-ce qu'il y a encore un autre travail ? Oui, il y a certainement un travail à faire.
Financièrement, exploitable facilement par ces gens-là. Alors que maintenant, elle va l'être.
De toute Ceci dit, on voit plein
d'opérations. Elle l'était, mais ça ne les intéressait pas, parce qu'ils allaient sur des grandes parcelles extérieures. Maintenant qu'ils n'ont plus ces grandes parcelles extérieures, ils vont aller à l'intérieur, et c'est très clair. Parce qu'ils doivent aussi, eux, trouver matière à travailler. Donc, il est clair que les parcelles qui ne les intéressaient pas, on va dire des parcelles de 3, 4, 5 000 mètres carrés, enfin, on peut donner, sans donner, on donne génériquement, effectivement, ces parcelles-là, ils n'y allaient pas au jour d'aujourd'hui parce qu'ils avaient suffisamment de terrain extérieur avec les extensions. Les extensions étant réduites, voire nulles, sur l'ensemble du territoire, là on parle de la métropole, et maintenant il y a des réinvestissements urbains, c'est l'objectif aussi, bien, les professionnels vont là où il y a la possibilité, et c'est très clair.
Laurent, tu peux intervenir?
Oui. Ben, une colombe, c'est normal, hein. On parle de quelque chose là, qui nous donne les 20 à 30 ans qui viennent, hein, et c'est l'avenir du village qui va se faire dans les années à venir. Donc, moi, je rejoins Gilles et Patrick sur les imperfections, quelques-unes qu'il y a dans ce document. Mais est-ce qu'un document comme ça peut sortir sans imperfection? Moi, ce n'est strictement pas possible. Le PLU actuel, il y a beaucoup d'imperfections. Il y en a encore quelques-unes dans celui-là. Je pense qu'on sera capable de les corriger. Et au fur et à mesure qu'on aura des projets de construction et autres, on verra bien qu'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait, qu'il faut aménager, qu'il faut voilà, réadapter un petit peu. Mais moi, je voudrais que ce soir, on ne perde pas de vue ce qui me semble essentiel. Et pour ça, j'aimerais revenir à 10 ans en arrière. 2014, ouais. Parce que bon, on n'était pas tous ici présents dans le combat, mais moi je l'ai en tête ce combat.
Ouais.
Autour d'Isabelle, derrière Isabelle, qu'est-ce qu'on portait comme vision du village, hein, par rapport à l'équipe sortante, qui nous proposait une ZAC, hein, rappelez-vous de ce groupe, de 25 hectares, hein, entre les Réaux et la Morte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous avait mobilisé très fortement à l'époque, hein, qui nous avait conduit à faire une liste pour porter une autre vision du village et de son avenir. Et dans cette vision, il y avait en particulier l'abandon et l'annulation de ce projet. Et le tout, c'est que la population nous a fait confiance puisqu'elle nous a donné une majorité, hein, pour premier tour. Hein, ça veut dire qu'on était suivi par une majorité de la population pour porter une autre vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une extension du village, il n'était pas question de tout bloquer, mais raisonner, raisonnable, hein, maîtriser, hein, c'était tous ces termes-là qu'on retrouverait si on prend notre programme de l'époque. Il y avait l'équilibre social dans le village, la mixité sociale qui était déjà présente et qu'on souhaitait préserver et consolider. Il y avait l'équilibre entre la zone urbanisée et la zone agricole et naturelle dans le village. Hein. Le bien-être en Muriel, il tient aussi beaucoup à ça.
L'équilibre de la pyramide des âges, rajeunir.
Voilà, donc tout ça, c'était la vision qu'on portait à l'époque. Moi, je vois ce document aujourd'hui et je me dis, ce document, il reflète très bien la vision que nous avons portée à l'époque. Et c'est ça que je souhaite retenir aujourd'hui et ce soir, hein, par rapport à ce débat. Et c'est ce qui me conduira à approuver ce PLUI, tout en ayant bien en tête, hein, et ne soyons pas naïfs, qu'effectivement, il y a quand même des petites imperfections qu'il nous faudra corriger en continuant
une vigilance,
à travailler.
Hein, une
mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai participé, pas à tous les débats, mais avec la métropole, les débats ont été rudes, ont été durs parfois. Mais moi, je retrouve là tout ce qui nous a semblé important et prioritaire pour faire évoluer le projet initial qu'on nous présentait au niveau de la métropole. Et je suis désolé, notre vision, elle a été prise en compte. Alors, peut-être pas dans tous les petits détails, sans doute, mais l'essentiel est là. Isabelle Labindi, puis Labindi aussi Gilles. Et donc pour ça, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'on crampe une étape très importante qui va nous permettre de construire des choses conformes à la vision que nous portions il y a 10 ans. Et je pense que cette vision, elle est toujours valable. Et voilà, je souhaite que, je pense que d'ailleurs, on est tous ici porteurs de cette vision, puisqu'on est dans la continuité, hein, de ce qui avait été fait longtemps.
Laurent ?
Oui, je rejoins la question par rapport au délai de révision. Il est figé, 3 ans, ou c'est évolutif ?
Ben, ce qui se passe, non, ils nous ont annoncé 2028, hein, 3 ans. Oui. Donc ben, le temps déjà,
Le jalon, il est déjà...
Ben, c'est... Alors après, on va changer des... ça va être un autre mandat. Hein. Donc eux, je dirais, c'est des réponses aussi...
Oui, c'est politique.
Voilà. Mais... ça, c'est pas de révision. Après, il y a peut-être des choses qui sont dans le cadre de modifications simples, enfin de modifications. Il y a deux types de modifications.
Oui. Il y a une révision et une modification.
C'est non, mais même dans les révisions, il y a les simples, il y a différents niveaux encore de révision. Parce qu'il y en a une révision, logiquement, se fait avec enquête publique, une modification. Enfin, le niveau d'enquête publique est différent. Enfin, bon, c'est juridique. Hein. Non, là, par exemple, nous, ce qu'il faut qu'on demande, ce qui doit être demandé, que la commune doit demander dès qu'il est approuvé, c'est tout de suite enclencher l'ouverture à l'urbanisme de la zone artisanale, pour que le projet derrière... Mais là, c'est une modification du PLU. l'ouverture à l'urbanisation. Mmh. Il y a des choses comme ça. Ça, les modifications peuvent être enclenchées immédiatement.
Ça c'est au fil de l'eau.
Après, je pense que réviser le pourcentage de surface perméable en pleine terre dans la zone UC4 ou UC3, je ne sais pas si c'est une modification ou une révision, par exemple. Donc il y a des choses sous forme de modification qu'on peut rapidement enclencher.
Est-ce qu'on pourrait le faire passer au commissaire enquêteur ? Est-ce que ça pourrait pas être pris en compte par le commissaire enquêteur ?
Alors, au commissaire enquêteur, ce sont les particuliers. C'est plus la commune. Hein. La commune, elle arrête un projet, donc elle le soumet. Maintenant.
On porte aussi les.
Alors maintenant, les particuliers, il faut. Alors, on y vient. Alors, on va mettre un article dans le bulletin municipal, la feuille pédagogique. Donc, il va y avoir, dès lors que le PUI est arrêté aujourd'hui, et c'est la même chose un peu dans toutes les communes là. Au 31 décembre, je crois que les communes avaient, je ne sais plus combien de mois pour se prononcer. L'enquête publique va être lancée en, c'est quoi les dates ?
Janvier, la date exacte, j'essaie de la retrouver, je crois que c'est le 27.
Donc nous, on va communiquer très fortement dans le bulletin municipal pour inviter tous les particuliers, vous aussi de votre côté, allez, dites-le autour de vous pour que les personnes, c'est-à-dire le processus de PLUI continue. Hein. Mais là, maintenant, juridiquement, il fallait qu'un projet soit arrêté pour lancer l'enquête publique. Donc il y a les commissaires enquêteurs qui vont venir, il y a les sites web, il y a les courriers qu'on peut faire, tous les courriers hein, qu'on peut faire, recevoir en mairie et nous on les transmet ben, par tous les moyens pour relever, ben, là écoutez là vous m'avez mis un arbre remarquable mais pour moi il n'est pas remarquable, ben, ça se regarde, tout ça il faut des argumentaires etc. Hein. Et ça vient amender, améliorer, dans la mesure où c'est possible, hein, aussi juridiquement, le document final. Et d'ailleurs, la métropole doit démontrer à la fin qu'elle a regardé tout ce qui est remonté par l'enquête publique, et qu'elle l'a pris en compte, et qu'elle a regardé, ben ça oui, c'est possible, on modifie, ça ben non, c'est pas possible, parce que réglementairement, enfin je sais pas. Parce que qu'est-ce que va devoir faire la métropole ? C'est faire un dosage dans l'enquête entre des choses qui vont être, comme je disais, contradictoires. Des agriculteurs ou la chambre de culture qui va dire moi je veux plus de constructibilité et les associations qui vont dire nous on en veut moins. Enfin, dire une société c'est faite de points de vue. Voilà. Donc il faut arriver à un équilibre quand même. Tout ça dans. Et que ce ne soit pas fragilisé. Il faut aussi que le PLUI puisse être opérationnel et soit pas trop fragile. Parce que s'il y a des recours qui font qu'il est. Au tribunal administratif qui est cassé, ben ça veut dire que nous, on continue avec le PLU. Quoi. Mmh. Et là, c'est pas du jojo qui peut sortir de terre, quoi. Je vous cache pas. Donc, on essaye de faire, on freine de tout. Depuis que le PLU est lancé, on freine des cas de fer pour que les constructeurs, les promoteurs respectent le PLU et le PLUI. D'ailleurs, ils respectent des reculs. Ils respectent des prospects, ils respectent, enfin, on y travaille des taux de surface perméable à la parcelle. Déjà, on se met dans cet esprit-là. Et on y arrive, même si, voilà, réglementairement, ils pourraient dire, PLU, voilà, on fait ce travail pour que déjà, ils rentrent dans la nouvelle. Nouveau paradigme, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Oui, tu veux
quelques informations qui ont été données par la métropole quant à donc, ce qui est prévu comme future enquête publique. Il est envisagé durant le mois du 29 janvier au 28 février 2025 avec une remise prévisionnelle fin mars. Donc les dates d'enquête seraient du 29 janvier au 28 février 2025. Ce sera donc. Avec trois dossiers uniques, le PLUI climat, le zonage d'assainissement et le zonage pluvial. C'est M. Mété qui a été désigné comme président de la commission d'enquête. Il était précédemment mobilisé sur le SCOP, l'extension de la ligne 1 et la ZAC Nina Simone. Donc il connaît bien le territoire. La commission d'enquête sera composée de 11 commissaires enquêteurs, donc sous la présidence de M. Mété. Et l'organisation de l'enquête a été proposée par le président de la commission. Comme le SCOT, l'enquête s'organisera physiquement. Donc il y aura une partie qui peut être faite par Internet, une partie qui peut être faite par les remontées, mais physiquement à l'échelle des secteurs et non des 31 communes.
C'est par secteur.
Donc, c'est par secteur. Au jour d'aujourd'hui, les lieux d'enquête qui sont, s'ils sont identiques à ceux du SCOT, seront Montpellier à l'hôtel de ville, Montpellier à la métropole, Pérols, Castries, Clapiers, Saint-Georges-d'Orc, Pignan, pour assurer un maillage, et deux autres communes supplémentaires, Fabrègues et Saint-Dreséry.
Donc pour nous, c'est Saint-Georges-d'Orc, quoi.
Ou Pignan.
Ou Pignan.
Ou Pignan. Je pense qu'on a la même distance. Donc, voilà. Et voilà. Et ensuite, le processus pour amener une approbation prévue avant l'été 2025. Voilà, les informations.
On a une date pour les commissaires quand ils viennent, non, sur, cette, sur ce
oui.
mois-là.
Ah non, la date exacte, non. Le, c'est entre,
on ne connaît pas encore.
Entre le 20
et le 21. Dès qu'on l'aura, on
voilà.
peut
c'est, mais dès qu'on a exactement et les dates, et les lieux, et les, surtout dans les lieux, les dates exactes, on communiquera ben, par les canaux qu'on a, dont on a l'habitude de communiquer. Voilà.
Mais est-ce ça qu'il sera précisé. Il y a d'autres observations, des questions que lui. Du coup, je le mets aux voix. Qui est contre l'approbation du projet ? Gilles Chicot. Qui s'abstient ? Ben, merci, il est adopté, donc à la grande majorité, moi une voix. Merci à tous. Donc, c'était un peu long, mais je pense que, comme tu disais, Laurent, c'est un moment important dans l'histoire. Donc, je vous propose de passer à la question de la ZFE. Un vœu avant le
3.
Ouais. Ouais, le 3, parce qu'on a... On a...
Ouais.
Ouais. Donc, on en a discuté en réunion d'élus. Suite à cette réunion d'élus, donc vous avez une proposition de vœux. Après, je peux la lire et puis je vous laisserai bien entendu prendre ce que vous avez à dire. Donc, ça, c'est donc un vœu. Laurent Pratt l'a relu et là, c'est la version relue et amendée par Laurent là, que j'ai connue là. Donc, en fait. La zone à faible émission, elle est mise en place depuis déjà 2 ans et elle entre au janvier 2025 dans une nouvelle phase d'application avec extension de l'interdiction aux critères 4.
3.
Et c'est, 3, pardon, excuse-moi. Et c'est ça qui, c'était déjà critère 4, excuse-moi. Et c'est ça qui donc, motive ce vœu. Chose qui s'est faite dans une très grande majorité des communes, j'ai pas le chiffre exact, hein, on nous dit 25, moi j'ai pas le chiffre exact, hein, de communes qui émettraient voilà, un avis demandant un moratoire, on va dire, sur la mise en place de cette disposition-là. Je crois que c'est 25. Alors, on ne peut pas délibérer sur ce sujet-là directement, puisque c'est une. On n'a pas le cadre juridique pour le faire, mais on a, si ce n'est voté contre le PDM, mais ça c'est le point d'après. Et donc, comme dans de nombreuses communes, c'est un vœu. Donc, pour un moratoire, je vais le lire, hein, sur la mise en œuvre de la zone à faible émission sur la métropole de Montpellier. Donc, le conseil municipal approuve la mise en place d'une ZFE. Sur notre territoire, étant donné les enjeux de santé publique, de pollution de l'air dans les agglomérations centrales, comme Montpellier et les communes de la première couronne. Donc les zones à faible émission, ce sont des dispositifs qui se mettent en place partout en Europe à la demande de l'Europe, hein, et de la réglementation européenne qui doit être respectée. Les pays qui ne la respectent pas en termes de dépassement des seuils de pollution ayant des amendes. Les ZFE sont en place depuis très longtemps en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans de nombreux pays. De ce point de vue-là, en France, on est un petit peu, je ne vais pas dire en retard, mais un peu décalé. Là aussi, je fais un aparté sur à l'échelle française. Donc, on parle de la première cause de mortalité, juste après, je crois, le tabagisme. C'est ce qu'on a dit à la métropole, 40 000, estimation de 40 000 morts par an. En tout cas, pardon, ça, les cancers, c'est les maladies. Là, je te parle, parce que les pollutions, je parle des sources de maladies. Parce que la pollution de l'air peut engendrer un cancer, peut engendrer des tas de choses, comme le tabagisme peut engendrer des maladies. Donc, là, je parle vraiment de l'origine, des causes, des facteurs de mortalité. Donc, c'est le premier facteur de mortalité, juste après le tabagisme. 40 000 morts par an, estimés en France, sur la métropole de Montpellier, estimés par Atmo, 400 morts par an. Donc essentiellement, c'est la zone polluée dans la ville de Montpellier et la première couronne, qui est la zone la plus dense. Qui est d'ailleurs la zone, les communes sur lesquelles aujourd'hui s'applique la ZF Murviel, ça ne s'applique pas pour l'instant. Et ça, ce sera décidé, je fais une parenthèse, lors du prochain mandat, puisque c'est repoussé à après 2026. Je continue le vœu. Donc déjà, moi, c'est important de relever qu'on est bien entendu favorable à ce que tout soit mis en place pour qu'on diminue la mortalité liée à la pollution de l'air. Le conseil municipal salue le travail de concertation qui a été mené pour établir ce règlement de la ZFE donc, sur la métropole de Montpellier, notamment vis-à-vis des différentes catégories professionnelles, des deux-roues, des services publics, des particuliers, des dérogations qui ont été établies, de très nombreuses dérogations, voire même, je fais une parenthèse, certains maires disent tellement nombreuses que c'est illisible, c'est difficile à comprendre, ces dérogations, afin de ne pas pénaliser les habitants les plus vulnérables. Donc il y a les petits rouleurs, le pass 52 jours, pass 52 jours donc, qui permet 52 jours, quoi, une fois par semaine.
Ça ne marche pas, ça, encore une fois.
Voilà.
Par contre, les petits rouleurs, oui.
Et pour inciter les usagers à prendre les transports collectifs, par exemple, il y a des dérogations sur les axes principaux qui mènent les axes principaux sur la métropole, et notamment ceux qui mènent aux terminaux, au parc Montpellier. Toutefois, de nombreux concitoyens n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule autorisé dans les DA répartis. Donc, j'ai oublié de dire, il nous manque une petite phrase là, donc il faudra qu'on la rajoute. Le délai imparti pour l'application à de la règle de l'interdiction au critère 3. Qui plus est, dans un contexte économique difficile, et ce, malgré les aides multiples en décroissance. Donc, vous voyez, dans un contexte de décroissance des aides, hein, que ce soit de l'État, ADEME, région, le reste à charge restant encore très élevé. On est encore suspendu à ce que ça va donner dans le cadre du budget de la loi de finances et du budget 2025 au niveau de l'État, mais a priori les aides à l'acquisition de véhicules électriques diminuent, par exemple. De fait, ceci, pour ces concitoyens qui sont en nombre important sur notre commune comme sur la métropole et sur les communes voisines, dépendent exclusivement de leur véhicule personnel actuel critère pour se rendre sur leur lieu de travail ou de la chalandise. En effet, Murviel se trouve dans la deuxième couronne de la métropole et la desserte en transport en commun. Alors, elle n'est pas négligeable. Hein. On a un cadencement qui s'accélère, qui s'accroît au niveau du bus. Mais le problème, c'est la durée du trajet. Aux heures de pointe, si on veut aller sur Montpellier avec le bus, et on met un temps très long. Et c'est surtout donc la durée, parce que si on compare la commune, je fais des parenthèses à chaque fois dans le vœu, et ça c'est quelqu'un de la métropole qui me l'a dit par rapport à d'autres communes comme Montarno qui sont en dehors de la métropole ou quoi, alors là le cadencement des bus pour venir sur Montpellier, il est beaucoup plus faible. Donc on a un cadencement, transport à la demande, mais on a une aux heures de pointe, pour aller au travail, une durée de trajet qui est très, très longue en bus. Et les lycéens aussi en pâtissent. De plus, concernant notre commune, alors qu'on le sait, on a eu beaucoup de concitoyens à sauter sur l'aide à l'acquisition du vélo à assistance électrique, par exemple, de la métropole. Donc il y a une forte appétence des concitoyens des Murviellois à aller à vélo. Mais malheureusement, les perspectives de voir des voies adaptées au vélo, pour l'instant, s'éloignent. Donc en fait, concrètement, même si on y travaille, hein, je reviens là-dessus pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc pour l'instant, les alternatives en fait à la voiture, concrètement, sont très... Il n'y en a pas. Ou peu. Il y en a, hein. Il y a des concitoyens qui vont en transport collectif ou en vélo à la métropole, en ville. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, tout en approuvant globalement le plan des mobilités, hein, mais ça, on va y venir dessus, c'est l'affaire d'après, Mais constatant également une différence de temporalité avec, de ce PDM avec la mise en phase opérationnelle d'un ZFE, le Conseil émet fortement le vœu que le calendrier de mise en œuvre, et notamment l'interdiction des véhicules critères dans la métropole, soit adapté et demande un moratoire de 3 ans. Donc on fait ce vœu, on demande. C'est ce qu'on, suite aux réunions qu'on a eues, voilà comment on a rédigé ça. Juste quand même une information complémentaire et après j'ouvre le débat. Grosse discussion donc au Conseil de métropole de mardi dernier, où différents maires ont pris la parole. Vous savez, le maire de Castelnau qui a fait une demande de une motion sur une des affaires, parce que le PDM a déjà été voté hein, en Conseil de métropole au mois d'octobre. Donc il a saisi une autre affaire sur covoiturage pour faire cette demande. Et ce que Michael Delafosse a annoncé, c'est que ce sujet de la ZFE sous une forme qui est encore à définir, donc extraite du PDM, je ne sais pas sous quelle forme, serait remise à l'ordre du jour du prochain Conseil de métropole et ce sera début février. Donc pour l'instant, on a une sorte de... Les choses suivent leur cours. On a une sorte de moratoire de fait, si on veut, dans le sens où il n'y a aucune verbalisation, puisqu'il n'y a aucune signalétique verticale d'installer sur la métropole. Et tant qu'il n'y a pas de signalétique verticale d'installer, il n'y a pas de verbalisation possible, que ce soit de la police ou de la gendarmerie. Donc, nos concitoyens qui utilisent le critère 3 ne seront pas verbalisés. Et autre élément important, donc ça j'apporte à la connaissance de tout le monde tout ce qui m'a été dit, hein, de partager. Nous ne sommes plus en ZFE obligatoire. Il y a différents régimes de ZFE en fait, en fonction du niveau de pollution. On est en ZFE à zone vigilance. Le terme exact c'est vigilance, c'est important de m'aider. Forte vigilance, chose comme ça. On était en ZFE obligatoire, on est redescendu depuis un an en ZFE vigilant, donc avec plus de souplesse, on va dire, du point de vue de l'État, puisque les données de pollution atmosphérique s'étaient nettement améliorées l'année dernière. Or, ce qui a été constaté, c'est un grand mot, ça résultait du fait non pas qu'il y ait une pollution... fortement décroissant sur la métropole de Montpellier, mais c'est que les bornes qui servent à mesurer la pollution étaient situées dans un quartier Saint-Denis où entre-temps le tram avait été installé et où donc il n'y avait plus de pollution. Et donc normalement pour mesurer la pollution dans une métropole, il y a des normes à respecter pour positionner ces appareils de mesure et ils doivent être positionnés le long d'axes routiers avec des normes très précises de lois qui doivent être mises, etc. Donc ATMO, l'association LASCA, l'association de surveillance de la qualité de l'air qui fait tout ça, organisme indépendant, a repositionné les nouveaux appareils de mesure et là, le niveau de pollution officiellement mesuré va remonter. Et donc, ce qui nous a été annoncé, c'est qu'à 99 cents sur 100, au 1er janvier 2026, la métropole va retomber dans le statut de ZFE obligatoire, et donc la mise en œuvre de la mesure va de fait être imposée. Voilà, je pense avoir donné tous les éléments, mais d'autres. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Oui,
je prends la parole. Parce qu'effectivement, la ZFE, c'est un sujet qui est quand même assez sensible pour certaines personnes, tout le monde, puisque on l'a dit, il y a des enjeux de santé publique. Donc c'est important, effectivement, de faire attention aujourd'hui à diminuer nos émissions, à faire en sorte qu'on respire mieux et que quelque part on diminue le nombre de morts. Ça, on est tous conscients, on est tous clairs et je dirais que c'est quelque chose de très important. Pour autant, ce qu'on peut regretter aujourd'hui dans la ZFE, quelle que soit la ZFE d'ailleurs, et celle de Montpellier en fait partie, c'est qu'aujourd'hui on va mettre une pression sur des personnes qui n'ont malheureusement pas les moyens, parce que même si ça fait 10 ans qu'ils savent qu'ils ont à changer leur véhicule, s'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. En plus, les aides aujourd'hui sont en train de diminuer comme peau de chagrin. On voit que depuis le 1er décembre 2024, c'est-à-dire il y a quelques jours sans que personne ne soit au courant, le gouvernement a diminué par deux les bonus. Donc déjà, c'est un bon appel, c'est vraiment c'est un bon signe pour que les gens changent leur véhicule. Et ensuite, certes, c'est en deux étapes, la ZFE, mais pour autant, les gens qui habitent, et on le sait, en périphérie, qui ont besoin de travailler, on parle aussi des artisans, hein, des fois qui ont des voitures, notamment diesel, vont se retrouver contraints à être bloqués. Alors non pas en 2025, puisque avec ou sans vœux, il va y avoir la possibilité peut-être de tirer un an de plus, mais apparemment en 2026, de toute façon, le couperet va tomber. Ce qui est encore plus dommage, c'est que quelque part, on l'intègre au PDM de façon à ce que il soit inclus, il a été voté, donc maintenant il est trop tard, il est exécutable. L'autre chose, faire un vœu, je suis tout à fait d'accord, on va faire un vœu. Mais un vœu, ça n'engage que ceux qui le font, et malheureusement, ceux qui y croient, une fois que les votes seront faits, ils ont déjà été faits à la métropole, vous aurez, c'est un peu le mot du jour en ce moment, enfin c'est un peu l'ordre, une association ou un collectif qui va attaquer en référé monsieur le président de la métropole ou monsieur le maire ou le préfet directement, puisqu'il doit aussi exécuter, et l'enjoindre d'exécuter. Une fois que ça sera fait, ça sera fait. Quoi qu'il en soit, les gens seront obligés
Sauf si les panneaux sont présents.
Oui, mais les panneaux. Enfin, je reviens. Ok, il dit je ne mets pas les panneaux. Il s'est entendu avec le préfet aujourd'hui, d'après ce qu'il dit, pour ne pas mettre les panneaux. Jusque-là, on l'a tous entendu, du moins, c'est ce qu'on veut bien nous dire. Et je ne mets pas en doute à cette parole. Par contre, moi, je dis que si des associations ou des collectifs attaquent en demandant à ce qu'elles soient exécutées, exécutoires, et en référé, non pas avec des procédures qui sont longues, mais des procédures qui sont courtes, sachant qu'il y a des enjeux dessus et que ça a été voté, du moment que ça a été voté, c'est exécutoire, et ils le feront exécuter. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, après vous aurez les bras en l'air en disant « Excusez-moi, j'ai rien pu faire, ça a été voté. » Donc, je trouve que c'est un peu dommage, parce que quelque part, aujourd'hui, il y a des gens qui vont se retrouver vraiment dans des très grosses difficultés. Alors, j'espère que ça sera le plus tard possible, nous espérons que ça soit le plus tard possible, mais malheureusement, j'ai peur que ça soit un peu plus tôt que prévu. Voilà.
Laurent ?
Ouais, donc juste à titre d'information, bon, je suis un peu renseigné. C'est vrai que le secrétaire général de la préfecture, Frédéric Poiseau, a confirmé que tant qu'il n'y avait pas les panneaux, il n'y avait pas de verbalisation nationale, sachant que la police municipale, c'est du domaine de la mairie et que de la France avait déjà dit qu'il n'en serait pas les hostilités là-dessus. Mais comme le dit Gilles, si c'est attaqué, ça peut être remis en cause du jour au lendemain. Donc ça, c'est très, très aléatoire et très fragile. Au niveau des autres métropoles, j'ai un peu regardé aussi, il y a deux métropoles aujourd'hui qui ont gardé, qui n'ont pas fait de moratoire. Donc Grenoble, puisque Grenoble s'est connu pour avoir le smog déjà depuis des années, donc à la limite ça pourrait se justifier d'un point de vue environnemental. Strasbourg, puisqu'il y a aussi la proximité avec l'industrie allemande, donc ils subissent aussi un peu certainement une pollution industrielle. Et après toutes les autres, Reims, Marseille Est, Toulouse, Saint-Étienne, Rouen, Bordeaux, pourtant Bordeaux, Ulrich, est quand même bien placé, ont remis en cause de s'inédier cette échéance, soit par un moratoire, avec l'argument principal, comme tu l'as dit, l'amélioration de la qualité de l'air. Alors après, peut-être qu'en 2026, ce sera autre chose. Mais voilà un peu le paysage aujourd'hui, peut-être limité, c'est pas exhaustif, au niveau national. Quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant.
On rappelle, parce qu'à Stockholm, ils viennent de revenir en arrière, voilà, sur les voitures électriques obligatoires, aujourd'hui, je l'ai lu tout à l'heure, sur les voitures électriques obligatoires dans la métropole de Stockholm, parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait écrouler complètement l'économie de la ville même, parce qu'il n'y a plus personne qui y met. En fait, donc ils reviennent en arrière, ouais. Ils attendent que le cheptel de voiture soit remplacé petit à petit, voilà. Et pas imposé aux gens qui ne peuvent pas, de toute manière, ils ne pourront pas changer de voiture, parce qu'elles auront 20 ans, la moyenne des voitures qui roulent, sont 20 ans, et ils ne pourront pas les changer. Arriver à petit à petit à éliminer les voitures, faire en mesure qu'elles soient.
On les supprime de notre côté les aides, donc c'est compliqué. C'est l'équation qui est compliquée. On est dans une économie qui est quand même aujourd'hui très dégradée pour tout le monde. Hein, je veux dire, on ne va pas reparler de pouvoir d'achat et autres, parce que on est. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a des artisans murvillois que je connais qui ne vont plus, qui refusent les chantiers dans la ville. C'est très clair, il nous le dit, moi je ne veux plus dans la ville. Bon, pour des questions de bouchons et autres. Et aussi. Non, mais on est d'accord, mais il y a des questions de bouchons. Non, je ne mélange pas. Parce qu'ils ont aussi des véhicules diesel, et eux savent que le couplet va tomber. Comment vont-ils les changer?
Non mais attends, la moitié des véhicules qui rentrent dans mon pays n'ont pas de vignette déjà.
Non mais justement, ça, alors,
ça
va aussi.
Ça, enfin,
c'est normal
ça.
Ouais, 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 ouais. Non mais c'est, donc, voilà. Je veux dire, c'est bien, et tout le monde le sait, c'est un jeu de dupes, tout ça, tout le monde sait que c'est verbalisé, donc c'est... Bon bref.
Ce qui sera déterminant, c'est quand même le vote de la, du conseil métropolitain en février.
Mais je ne sais pas sous quelle forme. Mais alors, justement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est important de faire ses vœux.
Oui, oui, tout à fait.
Parce que ça montre le nombre de communes qui demandent ce moratoire.
Aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, Pignan a signé un moratoire.
Voilà. Voilà donc, et toutes les communes font des vœux.
Oui.
Même les plus hostiles.
Après, les vœux, voilà. C'est des vœux pieux.
Sinon, c'est un vœu politique. C'est pour montrer au président de la Fosse l'aider à aller. Et ça va
évoluer. Il y a des éléments qui vont le faire évoluer.
Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir, je crois, non? Non? Ah, j'ai cru. Pardon.
Non, en fait, moi, ce qui me fait un peu peur aussi dans tout ça, c'est que tous ces gens qui ne vont pas vouloir, moi le premier, je continue à rouler quand je roule, et en plus de ça, on va devenir des délinquants. C'est-à-dire le bon père de famille va devenir un délinquant. Il sera monté du droit par tout le monde, comme étant le délinquant de là, parce qu'il va prouver tout ça. Et ça, moi, ça me gêne beaucoup.
Mais ça, Patrick, alors moi, je suis pas d'accord. Parce que quand on ne mettait pas, et tout le monde, il y avait des objecteurs de conscience sur la... Là, ce n'est pas lié aux revenus. Hein. Là, ce qu'on dit, c'est un vœu par rapport aux populations vulnérables qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent pas changer de voiture. Dès qu'on change une règle, genre mettre la ceinture de sécurité, il y avait des objecteurs de conscience hein, qui disaient « Vous ne mettrez jamais ma ceinture. »
Ça, c'est
égalier,
je
me
pose un peu plus tard.
Et maintenant, voilà. Donc, je veux dire, au moment où tu mets en place une règle, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont estimer qu'on atteint à la liberté. Ça, c'est une chose, je suis d'accord. Là, c'est autre chose. Ce qu'on pointe dans le vœu, c'est qu'on cible, de fait, une population. Parce qu'il y a des personnes qui ont des vieux véhicules, mais qui peuvent en changer. Je veux dire, ils ont les moyens de le faire. Et moi, je les incite à le faire parce qu'ils polluent moins. Dire, j'ai les moyens, mais je garde... mon bon vieux diesel, parce que j'étais le garder, là par contre c'est discutable parce qu'on sait qu'on pollue. Ça c'est autre chose. Mais si on n'a pas les moyens, là c'est compliqué. Parce que c'est là où on pointe du doigt des personnes qu'on accuse quelque part de quelque chose alors qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
On pourrait très bien densifier les contrôles de pollution, comme ça se fait des fois à Paris, il y a des campagnes, sauf que moi j'ai jamais été contrôlé, je veux dire, pour un contrôle de pollution. Si tu veux vraiment prendre sur le fait des gens qui polluent, il y a déjà une législation qui permet justement de les sanctionner. Voilà, parce que ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est le couperet, quoi. Et là, ta bagnole est sortie à telle année, donc t'es mort. Alors que des fois, tu as des voitures qui sont anciennes et qui ne polluent pas, quoi. Mais bon, voilà, c'est mécanique.
C'est
mécanique,
hein,
voilà, c'est ce couperet.
Ça, c'est un sujet.
Eh bien oui, mais c'est lié.
Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc, le vœu, tel qu'il a été, je le mets au vote, qui est contre l'adoption du vœu. C'est vrai. Qui s'abstient? 4 abstentions. Donc, du coup, qui est pour le vœu? 2, 3, 4, 5. Attendez, il y a des procurations.
Le vœu.
Deux bras.
Qui est contre l'adoption du vœu?
Moi.
J'ai
pas de procu.
Qui s'abstient? Vous n'avez pas de procu.
Attends.
1, 2, 3. 3 abstentions.
Ça, je vais changer.
Donc qui est pour?
Attends. Les abstentions, c'est qui? Ok.
Donc Véronique, Gilles et Patrick.
Ok, merci.
Bah, tous les autres, c'est pour vous.
Oui.
Ça lui fait
pour
ça.
Le vœu. Maintenant, le plan des mobilités, qui comprend la question. J'espère que vous l'avez tous regardé, en détail, parce qu'il n'est pas. Je vais présenter très rapidement. Hein. En fait, le plan des mobilités, c'est un document stratégique. C'est un peu comme les PLU, comme les PLH, comme tous les documents. De planification. Donc pour améliorer les déplacements, donc il vise à réduire le trafic automobile, à promouvoir les moyens de déplacement les moins polluants, d'où la présence de la ZFE dans le PDM, Organiser le stationnement, optimiser le transport des marchandises, il y a l'aspect logistique aussi, c'est vrai. Les mobilités quotidiennes, notamment pour les élèves, la tarification et tout ce qui va être infrastructure de charge. Donc ça s'inscrit forcément dans le changement climatique. Donc aller vers de la sobriété, de la décarbonation des modes de transport, réduire l'empreinte environnementale, ça c'est le sens, je dirais, de l'histoire. Et garantir une mobilité universelle. C'est vrai que là, la ZFE, on freine la mobilité universelle dans un certain sens. Concrètement, ça se traduit par quoi le PDM c'est, vous l'avez reçu, hein, je crois que c'était en transfert, tous. Ça traduit concrètement en termes de cartographie par le plan de développement des bus tram, des bus, des tramways, des principales lignes rapides pour le vélo et toutes ces données-là. Au-delà de la ZFE. Alors, vous. Voilà, c'est. Donc, il y a quatre axes principaux. Développer la ville du quart d'heure, pacifier les centres-villes. Donc, réduire le trafic en centre urbain, ça c'est surtout pour sur la grande ville de Montpellier. Irriguer les bassins, les connecter. Donc, là, c'est tout ce qui va être développement. Des modes actifs, des transports collectifs, des réseaux alternatifs, notamment entre les zones d'activité économique, bureaux, déplacements, les zones qu'on appelle génératrices de mobilité, la travail, chalandise, courses et les domiciles. Réduire la contrainte financière du déplacement, ben c'est tout ce qui est lié à la gratuité des transports qu'on retrouve ici. Tout ce qui est information, il y a tout un volet information, accompagnement, transition vers les véhicules moins polluants. Et puis, tu as un volet dans le document qui est suivi, évaluation, pilotage du PDM. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport au PDM, pour l'avoir regardé au niveau de l'Ouest, et c'est un vœu, moi, personnellement, je voterai pour le PDM, parce que c'est tout le plan de développement des mobilités. Certes, il inclut la question de la ZFE, mais on vient de faire le vœu. Et j'ai pas dit en préalable, on n'est pas obligé de le mettre. Qui me dit mot consent, c'est comme pour le PLUI. C'est-à-dire si la municipalité ne le met pas au vote, ça veut dire qu'elle l'adopte. Donc on a décidé de le mettre au conseil municipal. Et il faut le faire avant le 31 décembre, je crois que c'était ça la date limite. Moi je souhaite qu'on accompagne cette délibération du vœu de voir. Alors, l'ex-projet de voie verte qu'il faut que l'on dénomme autrement, puisque les agriculteurs ne sont pas pour cette réglementation de la voie verte, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Mais pour qu'une solution soit trouvée pour aménager les circulations vélo entre Murviel et Pignan, et qu'à terme, à plus long terme, se fasse aussi la jonction Murviel-Saint-Georges-d'Orque. Et deuxièmement, moi je ferai une demande, ce que je vous propose, c'est de demander, on a déjà fait de nombreux courriers là-dessus avec Guillaume, c'est la jonction en bus, pas une fréquence très grande, mais au moins quelques fréquences par jour, entre Pignan et Meuvienne. On a demandé, fait déjà de nombreux courriers, on attend. Alors dans le PDM, il n'y a pas tout ce genre de détails, il n'y a pas toutes les évolutions ligne de bus par ligne de bus de tout ça, mais c'est une demande, je pense, qu'on propose qu'on fasse dans la délibération. Pour que la ligne, je ne sais plus laquelle, 43, enfin, avait identifié les lignes qui faisaient Montpellier et Pignan, et je suis proposé qu'elle continue jusqu'à Muriel, quelques fois par jour, pour pouvoir permettre aux personnes qui souhaitent d'aller au médecin, chez le. Ou d'autres choses, sur Pignan. Voilà, c'est mon proposition. Alors, les autres prises de parole, je ne sais pas.
Moi, je vais prendre la parole, parce que j'ai voté contre la ZFE. En fait, le plan de mobilité, moi, ça me pose question, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en gros, si on utilise sa voiture, on est pointé du doigt et qu'on est coupable de quelque chose. Alors, je suis désolée, moi, je prends ma voiture, parce que j'ai pas envie de passer une heure et demie dans les transports. Le tram, je le prends, parce que dans le cadre de mes missions à la métropole, je vais sur les régies, tout ça, donc je le prends régulièrement. Donc quand je suis intramuros Montpellier, je trouve ça très pratique. Aujourd'hui, j'habite Murviel, donc j'ai pas envie de prendre le bus, le tram, ou ma voiture plus le tram pour aller bosser. Je prends ma voiture. J'ai pas envie d'avoir la contrainte des horaires. C'est-à-dire, je prends ma voiture, je rentre, point. Voilà, effectivement, il y a de la circulation. C'est comme ça. Dans le plan de mobilité, on parle de l'amélioration de la sécurité. Et pour moi, en fait, l'amélioration de la sécurité, je la vois pas. Au contraire, je trouve que... je trouve pas que ça s'améliore, en tout cas, parce que comme on me donne
la sécurité à quel endroit,
dans Montpellier, on donne beaucoup plus de priorité aux cyclistes et aux autres mobilités douces, hein, il y a la trottinette, tout ça, et en fait je trouve que les gens sont très imprudents. Donc plusieurs fois il y a un carrefour, moi je prends tous les matins systématiquement quand le feu passe au vert, j'avance au pas parce que les vélos passent. Donc je trouve que le côté sécurité du plan des mobilités, il n'y est pas. En tout cas, il n'y a pas assez de contrôle là-dessus. Tous les jours, je vois des gens en trottinette avec le gamin devant, il n'y a pas de casque, il n'y a rien, quoi, voilà. Tous les jours, je vois des cyclistes passer au feu rouge, voilà, on s'en fout. Donc moi, je trouve que quand on utilise une voie publique, on doit appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Donc sinon, c'est après des risques pour tous, et puis j'ai pas envie de me prendre un vélo sur le capot de la voiture, quoi, parce que j'ai fait le choix de prendre ma voiture. Donc pour tout ça, en fait, voilà, pour moi, développement des mobilités, je suis pas contre, mais en tout cas, à l'heure actuelle, moi, je vois pas le côté positif, donc je voterai pas pour, quoi, voilà. Et j'ai pas envie qu'on me pointe du doigt parce que je prends ma voiture. Mmh. Voilà.
Moi, j'ai regardé aussi le PDM qui était très bien, qui est assez bien fait, qui est très bien fait même. C'est vrai qu'il donne une vision globale sur le territoire de la métropole, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que la métropole, il y a Sète, il y a donc des gens qui peuvent venir sur Montpellier. Ce qui est intéressant dans ce PDM, c'est que justement, il essaie de mettre en cohérence les différents acteurs, a priori. Donc ça peut éviter les chapelles, je veux dire, où on regarde la métropole, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, alors que la complémentarité est de fait, quoi, est effective. Par contre, bon, bien sûr, il y a le problème de la ligne C6, donc dans les plans, donc la ZFE. Et ça, je pense que c'est une grosse ficelle politique pour nous faire avaler un peu la ZFE et noyer dans un mêling et l'eau, où on est pour quelque chose qui peut être cohérent, mais avec une temporalité quand même très longue, et surtout des aspects financiers qui, à mon avis, vu ce qui va nous tomber en 2025 et sur plusieurs années, risque d'être mis en cause. Alors que la ZFE, on l'aura. Voilà, ça, et j'en veux pour preuve, même si c'est un exemple assez limité, la voie donc, qui était prévue jusqu'à Pignan et qui a priori remis en cause, et certainement pas pour des problèmes techniques, c'est certainement aussi des problèmes financiers. Donc, globalement, peut-être, bon, l'exemple est pas bon, mais globalement, vu ce que ça va représenter quand même en financement, vu l'état des finances du département, et bon, Téver Mesquida en a parlé récemment, voilà, c'est chaud. La région, c'est pareil. Bon, voilà, la métropole, qui est bien placé pour le savoir, il y a des risques vraiment là-dessus, quoi. Donc voilà.
Moi, je pense que je vais voter contre aussi, parce que je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose dans le centre de Montpellier sans éviter déjà que les gens rentrent dans Montpellier. C'est-à-dire qu'au lieu de finir notre ceinture autour de Montpellier pour éviter que les gens rentrent, traiter les gens avant qu'ils rentrent, comme nous avait dit M. Delafosse, qu'on avait pensé de faire amener le tram jusqu'à Saint-Georges avant de tous les bouchons, tout ça n'a pas été pris en compte. Par contre, on commence par l'intérieur. Comme tu dis, voilà, on balance des voies à des gens qui sont inciviles. Ils font n'importe quoi sur la route. Il n'y a aucune... Moi, c'est pareil, je tremble tous les jours quand je suis sur la route. Maintenant, on peut écraser un cycliste. Je ne sais plus comment faire. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont rien. Ça me fait peur. Il y a 50 ans que je conduis, parce que je ne suis pas tranquille. Et je n'irai pas à Montpellier en vélo. Je vous le dis, c'est fini. Parce que j'ai peur maintenant.
Est-ce qu'il faut remettre en question une démarche En fait, là, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même sujet tout à l'heure qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire on a une démarche globale, une volonté globale et un projet d'amélioration des mobilités douces, de promotion d'un autre mode de transport. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans des petits grains de sable qui sont importants, mais qui restent des grains de sable dans un projet global de choix de vie, d'avenir, de durabilité, etc. Il faut faire attention prendre un peu de recul par rapport à mon sens, de la même façon, c'est peut-être pas des choses parfaites. Oui, les cyclistes sont imprudents et il y a une grosse notion de sécurité que je cautionne complètement, qu'il faut regarder. Mais en revanche, il me semble que la démarche quand même est louable et elle va dans le sens de l'amélioration du cadre de vie et de ce qu'on souhaite tous, il me semble. Après, évidemment, il y a des choses, voilà. Il y a des gens imprudents, il y a des gens qui sont pointés du doigt parce qu'ils continuent de prendre leur voiture. Voilà, chacun fait comme il peut.
Oui.
Enfin, voilà. Mais est-ce qu'il faut qu'on remette en cause le projet qui est un projet sociétal?
Oui, parce que pour moi, il n'a pas été fait dans le bon sens. C'est pour ça que je le rends pas. Je ne suis pas contre le RSA. Je dis qu'il n'a pas été pris par le bon
mais coup. Du coup, est-ce que tu
donc, automatiquement, il va en contrainte de beaucoup de personnes et de risques.
Est-ce que les incivilités, les risques, le non-respect du code de la route de certains remet en cause l'ensemble d'un projet de mobilité qui est pour l'ensemble d'un territoire? Oui. Parce que là, on pointe finalement des gens qui ne respectent pas, que ce soit en voiture, en vélo, en ce qu'on veut.
Parce qu'en voiture aussi, hein, des gens qui
ont voiture aussi. Je veux dire qu'en voiture, c'est pas mal aussi. Mais est-ce que c'est. Je rejoins Bruno là-dessus. Est-ce que c'est. Là, c'est un ensemble de projets hein, qui est sociétal, mais qui en même temps, sur un territoire, va permettre justement des évolutions, des développements. Et on ne réglera pas aujourd'hui avec le PDM les incivilités et le non-respect du code de la route. Et le non-respect du code de la route, ça reste de la personne, c'est pas ça.
Il y a aussi une chose, c'est qu'avec ce qu'ils ont fait déjà depuis quelques temps, ce qu'on a certain, ils créent des bouchons volontairement. Donc face à créer des bouchons volontairement, après on va nous expliquer qu'on pollue. En sachant qu'une voiture qui est à l'arrêt, devant la station, tu vois, à Seine-Neuve, en permanence, tu as le bouchon. Donc tu as le capteur qui est à côté, c'est impeccable, tu captes tout.
Venu la liberté.
Voilà. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. La façon dont ils le font.
Tu ne crées pas le bouchon. Le bouchon. Non, tu ne crées pas le bouchon. Aujourd'hui,
je ne me raconte pas que la voie vélo qu'ils ont fait sur la voie rapide, elle sert à quelque chose à part faire
le bouchon. Le bouchon y était, à Venu la liberté, moi, je l'ai toujours connu, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Non, mais attends, le bouchon, c'est pas véritable. Moi, j'aime bien. Attendez,
pas ça. Non, mais maintenant, aujourd'hui. Si tu veux, le bouchon, les bouchons sur Montpellier, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours plus en plus. Pourquoi? Parce que Montpellier et sa couronne accueillent tous les ans 10 à 12% de personnes en plus. Donc 10 à 12% de véhicules en plus. Donc les voies restant les mêmes, que tu mettes une voie ou deux, de toute façon, tu ne restes pas bouché.
Il y a 8000 personnes de plus, ça n'est pas 10%.
8300. Combien de véhicules
sont
achetés pour 1,8
pour l'euro 4. Mais 1,8, c'est déjà pas mal.
Alors, si je peux me permettre,
c'est déjà pas mal.
Voilà. Que ce soit audible, c'est que chacun prenne la parole.
Donc, c'est pour ça que quelque part, les bouchons, dans toutes les métropoles, tu ne vas pas les résoudre puisque tu augmentes la population et à un moment, tu vas augmenter le nombre de véhicules. C'est pas la question, elle n'est pas forcément là. Elle est aujourd'hui. De toute façon, les gens qui ne veulent pas respecter le code de la route ne la respecteront pas et ton PDM ne te fera rien dessus.
Moi, ça, je pense qu'avec cette question.
Voilà.
Moi, si je peux me permettre, à ce stade, je comprends ta préoccupation, Séverine. C'est qu'il ne faut pas que cette transition-là, qui est nécessaire, ce soit un clivage. Il y aura les bons et les pas bons, ça c'est pas acceptable et moi je te rejoins là-dessus et s'il y a un ressenti comme ça c'est important de le noter, il faut comprendre pourquoi. Par contre, quand des personnes souhaiteraient, moi des fois j'aimerais pouvoir prendre le bus mais je le prends pas, je le dis clairement, des fois je prends le vélo, des fois je le prends pas parce que c'est compliqué, c'est long, il y a des bouchons. Et donc,
c'est dangereux.
Donc, si on a un plan de mobilité qui fait qu'on accélère le cadencement des bus, qu'on règle certains problèmes, on fait des travaux, on aménage des voies, des bus trams, des machins, etc., et que ça permet que ceux qui le veulent puissent prendre ces transports en commun, ceux qui gagnent la voiture, et qu'au final, ben, on est quand même, on mène pas des heures et des heures à arriver à Montpellier et à bouchonner, et qu'on puisse arriver à satisfaire. Comme ça, mais en mettant à disposition de la population l'ensemble des possibilités. Donc moi, c'est comme ça que j'interprète le PDM. Et ce n'est pas pour dire qu'il y aurait des bons et des mauvais. Après. Mais au moins que ceux qui souhaitent prendre le vélo, parce que je vous signale, messieurs, dames, quand vous prenez le vélo, vous prenez, ça fait moins de place et donc ça diminue un peu les bouchons quand même. Donc, ceux qui veulent le faire, mais je personne de le faire, mais ceux qui veulent le faire, qu'ils puissent rouler en situation tranquille. Il y aura toujours des cyclistes malades, on est d'accord. comme il y a des automobilistes malades.
Mais ça, je suis d'accord, il y a des gens
qui vivent, c'est pareil.
Le PDM, c'est ça, en fait. Donc, moi, je pense que, par contre, ce que tu dis, c'est bien, il faut relever. Il faut que dans la communication, dans la façon dont c'est présenté, ce ne soit pas pointé du doigt les uns ou les autres. C'est-à-dire, on met en place, on investit, on met en place des méthodes pour que tous ceux qui souhaitent pouvoir utiliser ces moyens de transport puissent le faire, quoi. Moi, personnellement, je vous le dis, c'est un choix, la gratuité des transports. C'est peut-être très bien pour une grande partie de la population pour qui c'était un pouvoir d'achat, ça crée le pouvoir d'achat. Mais ce que je pense, là, sur Nouvelle, certes, il y a des personnes pour qui la gratuité, c'est intéressant, mais ce qui lèverait, qui ferait qu'il y aurait plus de monde à prendre le bus, ceux qui veulent, hein, c'est la durée du transport. C'est la fréquence, c'est pas tant le prix.
Elle disait qu'on n'est pas le bon côté.
Il devait faire des voies à haute qualité.
Voilà. Donc, c'est ça.
Ils ont mis les yeux dans les yeux qu'il faudrait monter le tram, donc en zone artisanale de Saint-Jean, avec un grand parking. On en parle avec lui, qui a été venu la première fois.
Enfin, faire passer le tram par-dessus la 750, c'est.
Non, mais. On le reste du même côté de la 750. Là où ils sont en train de faire le jeune voyage, tout ça. Là, on pourrait faire un super grand parking. Là, ça aurait été intéressant pour les villages aux alentours. C'est-à-dire, nous, on pouvait y aller très rapidement. Saint-Jean, je pouvais y aller. Même un grand-père pouvait remonter. Je veux dire, c'était pratique. Les gens ne rentraient pas dans Montpellier. Là, quand tu dois rentrer en voiture, que tu dois aller à la Mosson pour poser ta voiture.
Mais déjà, il faut arriver à la Mosson. Hein.
Voilà, déjà, pour arriver à la Mosson, non.
Alors, est-ce qu'il y a des.
Vous n'avez pas le temps.
Je vois le temps qui passe. Il y a des prises de parole.
En fait, le problème, c'est pas.
C'est vrai.
Le problème, c'est pas. Le problème, c'est pas la circulation dans Montpellier. Hein. Parce qu'une fois que tu es arrivé dans Montpellier, ça circule. Hein. Le problème, c'est avant.
Bah, ouais.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur le plan des mobilités ? Donc, je le mets au vote. Qui est contre le plan de mobilité ? Qui est contre le plan de mobilité ? Deux. Qui s'abstient ? Deux. Vous n'aviez pas de.
C'est
non, on n'a pas de.
Voilà, adopté à la majorité. Bon, alors pour le reste, on ira peut-être. Mais c'était des sujets importants. Affaire numéro 4, donc ça c'est Séverine, une décision modificative.
Ah oui, alors attends, faut que je. Alors, décision modificative au budget. Donc, pour pouvoir finir, clôturer le budget 2024 et notamment son chapitre 011 qui concerne toutes les dépenses courantes, hein, électricité, eau, voilà. On a besoin d'ajouter 20 000 euros de crédit sur ce chapitre. Et donc, on va juste transférer 20 000 euros du chapitre 65 sur lequel on avait un peu plus que besoin. Et les faire basculer sur le chapitre 011. Donc on n'augmente pas notre budget 2024, on fait juste une bascule d'un chapitre à un autre, parce qu'on a moins dépensé sur un chapitre et qu'on en a besoin sur l'autre. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions ?
De questions, d'explications ?
Je mets au vote, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci. L'affaire 5, c'est la charte de lutte contre la cabanisation avec l'État, ça c'est juste.
Oui. En préambule, aujourd'hui, nous avons déjà fait un article dans le bulletin, nous en ferons d'autres. Vous savez qu'aujourd'hui, alors que ce soit à travers les impôts, enfin le service des impôts ou le service de l'État, donc de la préfecture, aujourd'hui, ils sont extrêmement vigilants sur toutes les extensions qu'il peut y avoir dans les maisons. Ça, c'est une première chose. Et là, maintenant, on vient sur la cabanisation, c'est-à-dire la partie extérieure à la ville. Donc déjà, sur la ville en elle-même, vous avez vu qu'ils ont, dans un premier temps, regardé les piscines. Maintenant, ils sont sur les extensions de maisons. Et en parallèle de ça, le préfet, alors qui avait commencé sous le préfet Moutou et qui maintenant est suivi par le préfet d'aujourd'hui,
Loche.
Donc lui a mis en place une vraie lutte contre la cabanisation. Vous avez pu d'ailleurs en entendre parler dans les différents journaux.
En zone A et N.
En zone A et N, on est hors zone urbaine. Et vous avez dû d'ailleurs en entendre parler dans les journaux ou le voir à la télévision, puisqu'il y a déjà eu pas mal d'affaires qui ont été
traité par le préfet et ça s'étend sur l'ensemble de l'Hérault. Donc, afin de pouvoir, on va dire, avoir une cohérence avec le préfet et avec ses services, ils nous ont demandé pour qu'on puisse avoir accès à certains outils qu'ils utilisent déjà, d'adopter une charte. Et donc, je vais vous exposer la charte. Donc, les communes de l'Hérault sont confrontées à un nombre croissant de constructions ou d'occupations illégales, style chalet, mobil-home, caravane, mais ça peut être aussi des maisons, constatées sur les espaces agricoles, naturels et forestiers en infraction aux règles de l'urbanisation. Outre l'atteinte visuelle à l'environnement et la constatation de pollution de sites par le déversement d'eau usée notamment, c'est la salubrité et la sécurité de ces occupations qui sont un enjeu avec une exposition forte au risque d'inondation et d'incendie. On rappelle d'ailleurs que, là c'est en plus, pour dire que quand les gens en zone agricole mettent, enfin construisent une maison où ils vivent sans forcément autorisation, les pompiers ne sont pas toujours au courant. Et le jour où il y a un incendie, ça peut poser des vrais problèmes puisqu'on rajoute des points supplémentaires de défense incendie. Ça, c'est une notion que les gens n'ont pas forcément.
Ça fait du travail à Dominique Baril pour faire appliquer les OLD en plus.
Mais bon, voilà.
N'est-ce pas ?
Donc, en 2008, le préfet, le procureur général, auprès de la cour d'appel de Montpellier et 19 communes volontaires ont décidé de renforcer l'action publique en coordonnant leurs efforts, leurs moyens et leurs actions réciproques par la signature d'une charte. Elle rassemble aujourd'hui 62 communes. Adhérer à cette charte est une démarche volontaire de la collectivité qui, de manière forte et résolue, s'engage ainsi à lutter efficacement contre la cabanisation et protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers, notamment par la mise en œuvre de diverses actions. La première, c'est exercer une vigilance constante sur le territoire communal en adaptant et mobilisant des moyens suffisants, tels que l'emploi d'agents communaux ou intercommunaux commissionnés et assermentés à cet effet, agissant rapidement en cas d'infraction. S'opposer directement à ces installations au travers de la mise en demeure, d'arrêter d'interruption de travaux, de préemption et de refus de raccordement au réseau, notamment l'eau et l'électricité, puisque en général c'est ce qui est demandé une fois qu'ils sont installés. Prendre en compte les difficultés de logement des populations en mobilisant les outils disponibles, en mettant des emplacements réservés notamment, en créant des actes, mais là on est sur du réinvestissement urbain, voire de la préemption. Dresser annuellement un bilan des actions et procédures engagées, les transmettre à l'État, donc aujourd'hui c'est la DDTM, à travers la préfecture. Informer d'une part le public des sanctions encourues en cas de construction sans autorisation et d'autre part les acquéreurs et notaires sur les règles d'urbanisme applicables à l'occasion des déclarations d'intention d'aliéner. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une vente qui se fait sur la commune de Murviel, nous sommes informés par les notaires qu'il va y avoir une vente, donc on a effectivement l'information, mais ils doivent aussi normalement s'enquérir et auprès notamment des futurs acheteurs, leur rappeler les règles, et ça aussi il y a un travail je pense à faire auprès des notaires, parce que des fois on a des petites surprises sur les informations quand nous on reçoit les acheteurs qui sont surpris de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. En toutes circonstances, conformément à l'article L480-1 du Code de l'urbanisme et indépendamment de l'adhésion à la charte, le maire et ses adjoints sont tenus, dès qu'ils ont connaissance d'une infraction aux règles de l'urbanisme du territoire communal, de dresser un procès-verbal et de le transmettre sans délai au procureur de la République. L'État, quant à lui, s'engage notamment au travers de cette charte à soutenir l'action de la commune et... Donc, à animer le réseau de la police d'urbanisme, il l'anime, il le forme aussi, accompagner les collectivités par la formation, le conseil et un appui opérationnel dans les cas d'infractions complexes, désigner un agent de l'État correspondant territorial pour chaque collectivité engagée, nous en avons, et mettre à disposition ces outils technologiques tels que Aigle, dédiés au repérage automatisé des constructions ou implantations illégales détectées par photo aérienne et LUCA, le logiciel en ligne d'aide à la rédaction de procès, des procédures. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
L'État s'est doté de moyens et d'outils, notamment à travers Google et à travers Gemini, qui est une intelligence artificielle. Et il scanne régulièrement tout le territoire, hein, c'est pas propre à Murviel, hein, c'est l'ensemble du territoire. Et dès qu'il y a quelque chose qui est une anomalie, il le révèle. Et les agents de l'État, bien aujourd'hui, se déplacent sur les communes et sur Murviel. Ils se sont déplacés plusieurs fois et ils vont continuer de se déplacer dès qu'ils vont repérer ou dès qu'ils ont vu des choses qui ne leur paraissent pas normales. Alors, ça ne conduit pas toujours à une infraction, hein, il faut le savoir, pour aussi rassurer un petit peu les gens. Mais ils se déplacent, ils vérifient, et si le cas échéant, effectivement, il y a une infraction, eh bien, ils dressent procès-verbal. Et là, c'est l'État directement qui dresse procès-verbal. Mais avec cette charte, nous serons amenés, nous aussi, et nous le sommes normalement déjà, dans l'obligation de le faire dès que nous avons connaissance, porté à connaissance. Et ainsi donc, contribuer au suivi des procédures contentieuses et des échéances avec le parquet, ça c'est le lien avec la DDTM, et veiller à la mobilisation des outils réglementaires et structurer un réseau d'échanges sur ce sujet. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette charte départementale de lutte contre la cabanisation ?
Est-ce qu'il y a une durée ou le temps de cette charte ?
Non.
Un temps indéfini ?
A priori.
Non.
Non, a priori, une fois qu'on l'a votée, elle est...
C'est une charte, hein,
c'est... Ouais,
c'est pas une convention...
C'est un oui, mais c'est un vœu qui nous donne accès en même temps à des... on a des échanges et des formations aussi.
Laurent ?
Non, mais juste, je vous confirmer ce qu'a dit Gilles, bon, par rapport à ce texte-là. Il y a eu un reportage il y a 2 semaines, je crois, sur France 2, justement sur la... parce que c'était surtout sur le littoral, oui. Parce que Christophe Durand, le maire de Mireval, était interviewé. Et ils ont montré en public un gros bulldozer qui détruisait une maison. C'était assez impressionnant. Il y avait le sous-préfet, Guillaume Raymond, il y avait le préfet, enfin, il y avait la DTL et la DTM. Ça a dû marquer les esprits quand même, parce que c'est rare de voir des destructions. Et Christophe Durand, il n'en pouvait plus. Il disait, bon, à un moment donné, je suis maire. Et enfin, on a certains cas ici, peut-être c'est la commune, même si ce n'est pas la même activité. Mais voilà, sur le littoral, c'est vraiment très dur. Quoi.
Alors, c'est vrai que c'est surtout le littoral. Okay. Alors nous, sur Murviel, il y a eu, hein, par le passé, des constructions, oui. Même où des personnes habitent. Aujourd'hui, il y a prescription. D'accord. Ce qu'on leur explique bien, on est pédagogue quand même, on n'est pas... c'est qu'ils sont là, ça existe, mais il ne faut surtout pas qu'ils fassent une extension, quoi que ce soit. C'est-à-dire, la prescription existe de 6 ans. Le problème, c'est que si jamais ils font une petite extension, c'est visible de tout de suite par les fichiers, le système Aigle de la DDTM, là. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui bouge, remet les compteurs à zéro, je dirais. Et la prescription n'existe plus. Donc il faut surtout que les personnes soient bien informées de ça, mais on ne va pas expulser, enfin, ce n'est pas l'objet. C'est surtout de lutter contre de nouvelles tentatives qu'il pourrait y avoir de construction. Donc c'est l'existant, dire, voilà, puisqu'il n'y a plus de 6 ans, ben, écoutez, hop, ne bougez plus, et empêcher que des nouvelles constructions illicites, hein, on entend bien, hein, se fassent. C'est ça,
oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les notaires qui fait que, par exemple, il y a des coins de Muriel, de Pignan, oui, plutôt, qui ont été construits, je dirais, dans l'illégalité un peu totale il y a quelques années, et qui ont été revendus assez récemment comme de l'habitable classique?
Oui, ça existe aujourd'hui. Hein. Effectivement, un notaire peut tout à fait, à notre connaissance, hein, revendre un bien déjà existant, surtout quand il y a prescription, c'est-à-dire qu'une maison qui est là depuis 6 ans, elle a prescription. Au-delà, elle est existante. Mais pour autant, elle n'est pas régularisable. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va exister sous sa forme, elle ne va pas être détruite. Sauf si la personne fait une extension ou une modification. Alors, l'entretien courant est autorisé, hein, la DDTM le rappelle à chaque fois. L'entretien courant est autorisé, mais une modification remet le compteur à zéro. Et là, il y a la possibilité d'agir sur l'ensemble de la construction. Donc, on insiste et on va réinsister dans le bulletin, on va réexpliquer. On y va sur le terrain, on explique aux gens. On n'est pas, je veux dire, notre but, c'est aussi d'être en lien avec des personnes et de leur expliquer. Aujourd'hui, ils ont un existant. Cet existant, voilà, il est ce qu'il est. Il a été figé, il a été vu par la DDTM, il a été vu par les services de l'État. Maintenant, aucune modification, juste de l'entretien courant. Dès qu'ils auront une grosse modification,
ça repart à zéro, et là, ils prennent un vrai risque, parce que là, les services de l'État peuvent leur demander une destruction totale. Donc, alors, on veut en éviter là, on n'en arrive pas là.
Ça n'a pas été fait, hein. Voilà. On a eu des cas de personnes qui sont dans les écarts,
oui.
qui ont construit depuis moins de 6 ans, ils leur ont demandé de l'enlever, mais ils ne passent pas à...
Oui,
à la démission. Non.
Pour l'instant,
quand même, il faut faire attention.
On n'est pas encore là.
Mais, sur les nouvelles opérations, il faut être très, très vigilant.
Oui. En fait, c'est vraiment pour éviter aujourd'hui une cabanisation. Donc, c'est le point de départ, on va dire, du respect aussi de nos zones agricoles, pour nos zones
naturelles.
Et naturelles, c'est le but.
Par rapport à l'adoption de cette charte départementale de lutte contre la cabanisation, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Merci, adopté à l'unanimité. Alors, l'institution de l'IFSA, l'indemnité spéciale de fonction d'engagement pour la filière police municipale. Séverine, tu
peux... Oui. Alors, c'est dans le cadre de la réforme du régime indemnitaire de la fonction publique au global. Et ici, c'est plus précisément pour la filière police municipale. Ils étaient encore à l'ancien système, c'est-à-dire ils percevaient une indemnité qui s'appelait ISMF, indemnité spéciale mensuelle de fonction, et une autre indemnité, l'indemnité d'administration et de technicité, qu'on appelait l'IAT. Et pour harmoniser tous les régimes indemnitaires, maintenant, ces deux primes, vont n'en être plus qu'une seule, qui va s'appeler l'ISFE, donc c'est l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc cette prime se divise en deux parts, une part fixe et une part variable. La part fixe, elle est calculée en appliquant au montant de traitement un taux individuel. Et la part variable, elle est fixée dans la limite d'un montant plafond. Voilà. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de voter le taux max qui peut être appliqué et le montant maximum qui peut être versé. Donc le taux max pour la part fixe et le montant maximum pour la part variable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on vote là, c'est pas ce qui va être versé à l'agent. C'est juste on donne la possibilité à Madame Le Maire de verser une indemnité à l'agent. Mais cette indemnité, elle est plafonnée à hauteur de 30% pour la part fixe et elle est plafonnée à hauteur de 3000 euros pour la part variable. Et après, elle ne peut pas aller au-dessus, elle peut être en dessous, voilà. Non, c'est 3000 finalement, c'est pas ce que vous avez dans le rapport, c'est 3000. Donc, cette prime, l'ISFE, elle est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Elle est cumulable également avec les primes et les indemnités qui compensent le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le déplacement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001. Et donc elle sera applicable à partir du 1er janvier 2025. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça change, c'est juste les noms qui changent hein, aujourd'hui. Le régime indemnitaire, notre policière, elle l'a déjà en fait. Hein, voilà.
Pour elle, concrètement, ça ne change à quelle
proportion ? Dans les mêmes proportions.
Ça ne change rien.
Au niveau budgétaire, ça ne va rien changer. C'est juste sur sa fiche de paye, ça va changer non.
Et je crois que maintenant, l'ensemble des fonctionnaires et des agents titulaires de la municipalité sont sous le régime IFSE maintenant.
Alors là, c'est une spécificité pour la police municipale, c'est l'ISFE, et les autres agents touchent l'IFSE.
Ah d'accord, j'ai pas
Il y a une petite subtilité en fait. Le F et le S, ils sont pas au même endroit.
Bon, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, ce vote camouflé, ça se traduit par aucun changement, hein, peut-être à quelques centimes près, mais ça, pour la feuille de salaire, je dirais, de la police municipale. Mais il y a certaines communes où ça se traduit par des baisses.
Et oui.
Et du coup, ça...
Oui, parce qu'on vote dans certaines communes, on va voter une enveloppe globale. Et avant, le système de primes, c'était un peu à l'ancienneté de la personne. Et quand on est revenu au régime indemnitaire qu'on a été obligé de mettre un peu sur tout le territoire pour harmoniser, l'idée, c'était que deux agents qui occupent les mêmes fonctions et qui font le même travail, ils touchent la même prime, en fait. Voilà, c'est plus une question d'ancienneté. C'est vraiment une indemnité qui est liée aux fonctions qu'on occupe. Voilà.
Comme on a une seule policière municipale, c'est
sûr. Il y avait un entretien d'évaluation quand même.
Oui, oui. Alors, vous avez reçu, là je prends les affaires 7 et 8, sauf si vous avez reçu par vos transferts aussi, hein, les rapports annuels des délégataires de services publics pour de la régie pour. L'eau potable et l'assainissement, et puis pour les déchets. C'est ça aussi, hein. Donc vous avez les chiffres, donc je vais peut-être pas rentrer dans tout le détail. C'est des rapports annuels de délégataires qui sont transmis à la métropole tous les ans. Et pour ces deux DSP là, eau potable, eau d'assainissement et service public prévention et gestion des déchets, ils doivent être aussi adoptés, examinés, on va dire prendre acte, c'est une prise d'acte. Donc là, c'est on vote pas le rapport, on prend acte que vous l'avez bien reçu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous l'avez reçu?
Oui, bien sûr.
Donc, 7, vous prenez acte. Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas acte. C'est adopté. Sujet numéro 8. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, le Conseil prend acte qu'il a bien reçu les rapports. Et qu'il les a lus.
C'est déjà...
Ensuite, alors là, oui, c'est la convention avec du domaine public avec Totem France. Donc là, il s'agit d'un nouveau bail qu'on va établir avec Totem France, qui est une société qui s'occupe de l'installation, enfin de tout ce qui est les investissements, les installations de Orange. Peut-être que tu ne prends pas part au vote. Ou si c'est Totem, c'est plus Orange.
Ça va bien.
Tu peux prendre.
Ça va.
Non, tu peux prendre. Non, ça aurait été Orange, peut-être ça aurait été, mais là, Totem, il n'y a pas de souci. Donc c'est lié à l'antenne, donc au pylône, qui se trouve donc à l'ancienne déchetterie, d'ancienne décharge. Orange, pour l'instant, sur son pylône, accueille une antenne Orange et une antenne Free. Et se propose d'accueillir également une antenne Bouygues. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle, enfin pour nos concitoyens qui sont abonnés à Bouygues. Sauf que, alors il y a eu une négociation, ils voulaient mettre un deuxième pylône, et nous, on n'en voulait pas d'un deuxième, l'impact visuel étant important, donc on a négocié qu'ils ne fassent qu'un seul pylône, plus grand, un peu plus haut que l'actuel. Mais en le changement de place, parce que la dalle actuelle...
De 5 mètres.
Voilà.
On s'était déplacé avec Renaud et Gilles il y a un an. C'était en février de l'année dernière.
Ouais. Et donc l'impact visuel serait, somme toute, assez minime, serait un peu plus haut. De loin, il n'y aura pas une très grande différence. Ils vont changer de lieu, puisque la dalle actuelle ne supporterait pas le poids du pylône. Donc elle va juste être décalée un petit peu de quelques mètres. Et à l'occasion de cela, on a renégocié le bail. Ça a été un travail de longue haleine. Et globalement, on passe de 1000 euros, quelque chose comme 1000 euros, un peu plus de 1000 euros par an, à presque 5000, 4857 euros par an. Voilà. On aurait aimé encore beaucoup plus, mais c'est un monde, le monde de ce monde.
Il y a des cost killers.
C'est des cost killers, oui.
Difficile en affaire, on va dire.
Voilà, mais bon, quand même, on multiplie par 5.
Oui. Voilà.
Donc, on aura Bouygues en plus qui desservira beaucoup mieux la commune, et on a pour les recettes de la commune une augmentation et un impact visuel qui, somme toute, est quand même minime, puisque c'est juste un rehaussement.
C'est pour quand? Je sais pas.
Pardon?
C'est pour quand?
Ah, mais là, ils sont des starting blocks. Hein. Dès qu'on a délibéré.
Ils sont dans les starting blocks, parce que je crois. Je crois qu'ils ont déjà déposé le permis de construire sur la plateforme, mais je n'ai pas eu Benjamin pour vérifier, mais je crois qu'ils l'ont déjà déposé sur la plateforme numérique. À vérifier sous toute réserve, mais ils vont aller vite. Ils vont aller vite.
Donc voilà, il n'y aura plus que SFR qui sera encore pas très bien.
Ça passe pas du tout.
Ça passe pas. Hein.
Non.
Alors, je mets au vote ce projet de convention d'occupation de domaine public avec Totem France et l'autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. La convention d'adhésion à la mission de délégué à la protection des données avec le centre de gestion départemental. Séverine?
Oui. En fait, on est obligé d'avoir un représentant dans les collectivités pour la protection des données. Et en fait, comme nous, on dépend des centres de gestion, le centre de gestion, en fait, peut prendre cette compétence. Et en fait, on les avait déjà... c'est eux qui avaient déjà cette compétence qui nous représentait pour la protection des données. Donc c'est juste un renouvellement, c'est tout. Voilà.
Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. L'adhésion au contrat collectif de prévoyance proposé par le centre de gestion aussi. Là, c'est le contrat de prévoyance pour les agents. Séverine.
Oui. Alors, il y a un décret qui est passé en 2022, il me semble. Dans lequel les collectivités auront l'obligation de proposer des mutuelles à leurs agents et de participer, comme dans le privé d'ailleurs. Dans le public, ce n'était pas encore obligatoire. Donc, sur la partie prévoyance, c'est le maintien de salaire. Donc, au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'agent continue d'avoir son salaire en globalité. Et en fait, on anticipe là parce que c'est une obligation à partir du 1er janvier 2026. Et avec le centre de gestion, il y a eu un travail qui a été fait pour un appel d'offres au niveau des mutuelles, savoir ce qu'ils pouvaient proposer pour nos agents. Et du coup, on peut leur proposer une mutuelle, un contrat collectif à partir du 1er janvier 2025. La commune participait déjà auprès des agents pour ceux qui adhéraient à une mutuelle maintien de salaire. Ce n'était pas obligatoire. Du coup, maintenant, comme on leur propose un contrat collectif, cette mutuelle va devenir obligatoire pour tous les agents. Donc le contrat, on va continuer à verser un montant fixe, une participation fixe qui sera de 7 euros par agent. Et l'agent aura la possibilité de choisir, du coup ils ont le choix du niveau, non, c'est ça. Hein.
Donc, c'est 10 euros.
C'est pas 7 euros, c'est 7 euros qu'on donnait jusqu'à présent et ça passe à 10 euros, pardon. Et le contrat qui leur est proposé, en fait, c'est un contrat qui leur permet d'avoir un maintien de salaire à hauteur de 90% qui est retenu. Voilà. Donc nous, on a une part fixe de 10 euros par agent et par mois qui leur est versée. Et eux, ils ont une cotisation de mémoire qui est de 2% de leur base salariale. Voilà.
Donc on avait déjà un système, tu as bien expliqué, hein, mais qui était optionnel et qui était une disposition propre à la commune, même si ce n'était pas obligatoire pour la commune, on avait déjà parlé hein, de cette option, mais là, voilà. On va vers ce contrat collectif avec une aide augmentée de la part de la commune, on passe de 7 à 10 euros par mois. Est-ce qu'il y a des questions?
La prévoyance sera obligatoire à partir de 2026 pour les agents de la territoriale.
Ouais, en fait, à partir du moment où on adhère au contrat collectif, ça devient obligatoire. Et donc ça, c'est à partir du 1er janvier 2025, j'avais dit 2026, c'est ça? Non, 2025, et à partir du 1er janvier 2026, on sera dans l'obligation de proposer un contrat collectif pour la complémentaire santé.
C'est ça.
Et on sera obligé de participer également.
Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Je me vois qui est contre? qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Notre convention pour nos amis les chats, Dominique. 30 millions d'amis, on se compte tous les ans.
Bon. Alors, comme vous le savez, on a déjà engagé les conventions des années précédentes et là, on reconduit une nouvelle convention. On a eu un petit retard qui est lié à la mise en place d'une plateforme. Voilà, donc on va rattraper le petit retard de l'établissement de la convention. Donc, pour rappel, il s'agit de la gestion des chats libres, qu'on appelle aussi les chats errants, traditionnellement, qui est assez complexe dans la mesure où il est impératif de gérer leur population de façon à maîtriser leur prolifération. Alors, on dit classiquement qu'un couple de chats non stérilisés, théoriquement, je veux dire, c'est très théorique, il faudrait vraiment qu'ils vivent de façon très heureuse, pourrait engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans. Ça, ce sont évidemment les schémas général que présente 30 millions d'individus. Alors, une solution a maintes fois fait ses preuves, hein, c'est la fameuse stérilisation. Effectivement préférable à l'euthanasie ou au déplacement des colonies de chats, qui s'est avéré inefficace contre l'accumulation. Alors, d'une part, on a la stérilisation qui présente l'avantage de stabiliser automatiquement la population féline, qui a joué son rôle de filtre contre certains nuisibles. D'autre part, elle enraye le problème de désagrément que peut générer les traces d'urine, notamment. On a eu plusieurs retours sur la commune par rapport à ces jeunes-là. Outre les gueulements, on peut entendre. Et c'est vrai que dans certaines rues sur l'Urgène, il y a eu des problèmes pour être arrivés des filles, mais qui étaient assez désagréables. La présente convention va donc viser à encadrer la mise en place d'une action de façon à maîtriser les populations de chats libres sans propriétaire, par le contrôle de leur reproduction dans la législation en vigueur. Alors, la présente convention concerne uniquement les chats libres sauvages qui doivent être relâchés sur leur lieu de trapage après leur stérilisation et leur identification. Je rappelle à ce niveau-là qu'on octroie une subvention à l'association Chats Libres à Pignan qui s'occupe de ces opérations de trapage et du volet identification. La présente convention n'est pas applicable aux chats sociables adoptables et aux chatons pouvant être sociabilisés, c'est-à-dire que vos chats ne sont pas concernés. Elle détermine les obligations de chacune des parties intervenant dans les campagnes de stérilisation du chat libre sans propriétaire ou détenteur. Alors, dans le cadre de la nouvelle plateforme, on a formulé l'expression des besoins de la commune de Mirvielle-des-Montpellier, conformément au nouveau questionnaire 2024, et on est resté au niveau 2023, à savoir 8 chats. On participe donc à. Donc, comme en 2023, on participe aux frais de stérilisation qui soit un montant maximal de 360 euros dans la mesure où le prix d'une intervention est de 90 euros et que on va avoir 30 millions d'amis qui va régler 50% du montant total. Il faut savoir qu'il y a un vétérinaire qui s'occupe à Pignan des stérilisations des différents chats, et c'est lui qui effectivement reçoit les subventions de 30 millions d'amis. Et nous, on verse à 30 millions d'amis les 360 euros s'ils arrivent à 8 chats, et je peux vous dire qu'ils y arrivent tous les ans, et ils font beaucoup plus de 8 chats sur la commune. Ah oui.
On est plafonné à 360 euros ou on paye
non, 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 non. On est plafonné à 360 euros. La convention est très claire, on ne va pas au-delà.
10 ans pour 10 ou 12. 10 ans pour 10 ou 12.
Eh bien, c'est lui, ils le font. Mais c'est eux, c'est leur choix.
D'accord. Et c'est bien avec l'école des chats. Oui. Tu as parlé de chats libres tout à l'heure à l'association.
Non, les chats libres, c'est le statut que le chat
d'accord,
a.
Ouais. Oui, non, non, mais à un moment, il a une fourchette.
Il a un statut.
L'école des chats.
Les questions rituelles.
Ça s'appelle des chats libres. Ce statut n'existe pas pour les chats.
Alors, ils préfèrent quand même pouvoir gérer les femelles.
Ouais, non, les
mâles. Il y a plus de.
Un chat qui traverse la place Béka, est-ce que c'est un chat libre ou un chat sociable? Comment tu reconnais? Tu lui demandes?
Non, généralement, il y a des personnes qui s'occupent de ça à l'association. L'école du chat, ils savent très bien reconnaître les chats qui sont abandonnés eux-mêmes, qui viennent auprès des maisons, on leur délivre un petit peu de nourriture. Vu l'état dans lequel ils sont, le comportement qu'ils ont, l'absence de collier, c'est des professionnels.
Bon, on fait ça depuis maintenant, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 4 ans, ouais, et ça marche bien. Hein. On arrive à contrôler, il y a parfois, de temps en temps, dans un coin du village, une explosion, je veux dire, mais...
On est en 2023, une maison, là, pas très, une maison où il y avait, qui nourrissait 25 chats.
Voilà, donc c'est important de contrôler, hein, c'est une question, tu dis, à la fois pour la biodiversité des oiseaux et puis pour l'hygiène et la santé des oiseaux. Hein, ouais.
Voilà, rappelons que nos amis les chats, c'est quand même le plus gros destructeur d'oiseaux.
Alors, je mets au voix qui est contre.
Moi, j'avais juste une question par rapport au vétérinaire, parce qu'il y a quand même un vétérinaire captif. J'espère qu'ils ont négocié quand même au mieux la prestation. Connaissez-vous la prestation de les
oiseaux? Alors, c'est 80 euros une castration et 100 euros une stérilisation.
Pour l'association?
Oui,
c'est de ça. Et toi, tu veux le faire pour toi?
C'est les prix du marché.
Ils n'ont pas négocié en fonction.
Ah, si, peut-être.
D'accord. Mais en tout cas, ils font beaucoup plus. Ils font beaucoup plus que ça.
Non, mais le vétérinaire, alors, ils ont vendu les.
Qui est contre cette convention avec 30 millions d'amis? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Dominique. On a presque fini. Donc, l'étage des. Alors, Yann n'est pas là. C'est la délibération qu'on prend tous les ans à la même époque, c'est les tarifs de séjour d'hiver qui va se tenir aux vacances de février, j'imagine, pour les enfants de Murviel qui le souhaitent. Alors, ce qu'on a décidé, c'est qu'on subventionnait les familles pour les séjours d'été, campagne, séjour vert, classe verte, etc. Qu'on ne subventionnait plus pour le ski, pour des raisons de... Pardon ? Oui, financière, et puis aussi d'impact. On préfère, quitte à financer des séjours, des séjours d'été, qu'au moins d'impact carbone que les séjours de ski, dont on sait qu'ils ont des très gros impacts. Par contre, on met à disposition l'animateur qui participe au séjour, parce que ce sont des séjours organisés par l'intercommunalité, hein, par le groupement Interco. Et par contre, il faut qu'on fixe le tarif du séjour, donc c'est 580 euros. Donc là, on s'aligne sur ce qui est décidé au niveau intercommunal et on ouvre 5 places chaque. Ça correspond à l'animateur, que chaque commune amène aussi son animateur et ouvre des places. Donc, ça, c'est, je dirais, la même chose tous les ans. Hein. C'est les mêmes chiffres à peu près. Il y a peut-être une petite augmentation du tarif, parce que, et encore, non, je crois qu'il n'y a pas d'augmentation cette année. C'est la même chose que l'année dernière. Qui est contre ce soutien, je dirais, au séjour par l'adoption de ce tarif et la mise en disposition d'un animateur? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et pour finir, donc, c'est l'actualisation des tarifs du musée. Ça, c'est Corinne Durand qui présente.
Oui, donc, on vient d'actualiser les nouveaux tarifs du musée archéologique du Paul-Soiris. Donc, ils seront déterminés ainsi, gratuité jusqu'à 18 ans, les étudiants de Paul Valéry, demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap, conservateurs de patrimoine, journalistes, guide conférencier, membre ICOMOS. Gratuité pour les enfants de Murviel, du centre de loisirs et groupe scolaire. Tarif réduit à 1 euro pour les étudiants. Donc l'entrée du musée s'élève à 2 euros. La visite guidée qui se fait sur réservation, site plus musée, 8 euros par personne, à partir d'un bus de 8 personnes. Visite guidée du musée sur réservation également 5 euros par personne à partir de 8 personnes. Visite guidée du site sur réservation 5 euros par personne à partir de 8 personnes. et visite guidée du musée aux horaires d'ouverture, donc 4 euros par personne. Et donc, Madame Karine Annebert, merci, propose des ateliers aussi à 3 euros et des ateliers scolaires 2,30 euros.
Par enfant, hein. On est aligné sur la Tara. On est aligné sur les tarifs du musée de la Tara.
Ouais, pas cher.
Ben, on est aligné. Hein. Ouais. Ce qui se fait.
Non, mais c'est bien.
Voilà. On met au vote les tarifs. En faisant ça, on clarifie pour Karina Debert, donc, qui est vacataire, hein, qui s'occupe du musée. On clarifie un peu les prestations pour pouvoir les communiquer aussi sur les médias. Et on est, en fait, ce qu'on va privilégier concrètement, c'est les visites guidées sur réservation, parce que ouvrir le musée sans qu'il y ait personne qui vienne.
Oui,
je mets aux voix qui est contre ces nouveaux tarifs, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci à tous, la séance est terminée.